Je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci beaucoup à toutes et tous d'être présents ce soir pour ce rendez-vous avec Pierre-Damien Huyghe. Donc je suis ravie évidemment d'accueillir Pierre-Damien ici ce soir. Donc Pierre-Damien, pour ceux qui ne le connaissent pas, est philosophe. Il est professeur émérite ici de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est membre de l'Institut ACT également. Donc Pierre-Damien connaît très bien la maison pour y avoir enseigné
20 ans,
voilà, donc, pendant plusieurs années, et notamment pour avoir initié la formation en design ici à l'université. Donc on lui doit beaucoup, et c'est vrai que c'est une figure vraiment importante de l'UFR. Notamment aussi pour avoir installé la notion de design à l'UFR, puisqu'avant sa présence, on parlait d'art appliqué, donc ça change quand même beaucoup de choses de passer de la notion d'art appliqué à la notion de design. Donc tu as formé beaucoup de générations d'étudiants, de doctorants, et sensibilisé à la question de l'art et de l'industrie. Hein, tu es notamment connu pour un ouvrage qui porte ce nom, et pour une approche aussi philosophique et sensible du design. Tu t'es beaucoup intéressé aux écrits de Frank Lloyd Wright, à Molly Nodge, à Walter Gropius, à Paul Klee, Kandinsky, au Bauhaus, et notamment aussi à tout ce qui peut toucher à des conduites techniques et à la question plus vaste de la modernité. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages relatifs notamment au design et plus largement à l'art, à la photographie, au cinéma, au numérique. Et on te doit de nombreux ouvrages, notamment à l'ouvrage Art et Industrie, Philosophie du Bauhaus, qui a été édité chez Circé, qui a été réaugmenté aussi depuis 2015. À l'ouvrage À quoi tient le design, qui est un ouvrage que vous connaissez sans doute, qui est assez spécifique pour être constitué de plusieurs fascicules, de l'incidence éditeur. Et dernièrement, plusieurs fascicules ont été réédités et augmentés, notamment Poussée technique, conduite de découverte, le vitrine signaux logo également. Et puis, tu es aussi l'auteur d'un ouvrage sur le numérique qui s'appelle « Numérique, la tentation du service ». Moi je suis ravie de te recevoir ici. Je ne vais pas prendre beaucoup la parole. Cette conférence a lieu et j'en suis ravie puisque en fait elle avait été programmée l'année dernière au moment de blocus de l'UFR et donc elle n'avait pas pu avoir lieu. Donc on espérait vivement pouvoir faire en sorte qu'elle se tienne cette année, et c'est le cas, donc c'est parfait. Je voulais aussi souligner l'existence de ton site internet, où on peut trouver un grand nombre de ressources, de textes et de podcasts, notamment d'enregistrements audio. Ce soir, la séance sera normalement enregistrée, donc il n'y a pas de problème technique, et on fera peut-être en sorte qu'elle soit écoutable quelque part sur la toile. Donc je suis particulièrement heureuse que cette conférence ait lieu, une conférence qui a pour titre « Où en sommes-nous avec l'idée de design ?» Donc une question qui vous touche directement, notamment pour les étudiants qui sont en design à Armélia ici. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup encore d'avoir accepté mon invitation et on va t'écouter attentivement.
Bien. Bonsoir, je te remercie beaucoup Sophie, je peux dire au public que tu fais partie de la toute première génération d'étudiants que j'ai rencontré quand j'ai été nommé dans cette université en 1999, si ma mémoire est bonne. Et donc on a fait du travail, et je pense que les étudiants m'ont beaucoup en fait formé à parler du design comme j'y suis devenu un peu capable d'en parler. J'avais extrêmement envie, c'est pourquoi je te remercie encore une fois Sophie, de faire la conférence que je vais faire ce soir ici, à Paris 1, de revenir dire ce que je vais vous dire ce soir ici, parce que d'une certaine manière, j'ai envie, je voudrais revenir à plus de 20 ans de distance, presque 25, sur les conditions qui ont fait qu'il a été possible de créer dans l'université française. C'était pas du tout évident, c'était pas gagné avant l'année 2000 et les années même qui ont suivi. Un parcours d'études, je tiens beaucoup à ce mot de étudiant d'études, donc créer un parcours d'études à l'université qui porte le nom de design. Ça a été une bagarre, et pour que cette bagarre soit remportée, il a fallu en passer par la proposition d'un label qui a rendu autorisable le basculement de la notion d'art appliqué à la notion de design au sein de l'université en général et de celle-ci en particulier. Et le label en question, si j'ose dire, avait été celui que j'avais adopté, ou dû adopter, de design et environnement. Et j'avais demandé, insisté, ça a l'air étrange, mais c'était une vraie bagarre, pour que le mot environnement soit écrit avec un S. Et ça supposait de beaucoup être attentif au fonctionnement des dispositifs administratifs, parce que le S se perdait volontiers. Or, ça me semble tout à fait essentiel, je vais y revenir ce soir, de ne pas penser environnement au singulier. Et en fait, ce que je voudrais faire ce soir, au fond, c'est une critique de cette notion. Je voudrais, moi qui ai dû l'emprunter à une époque pour que quelque chose existe sous le nom de design à l'université, je voudrais désormais, de cette notion, de ce mot, faire une sorte de critique. C'est pourquoi, expliciter cette critique ici, c'était pour moi quelque chose d'important. Alors Sophie a donné comme titre, enfin vous a dit comme titre de la conférence de ce soir, le titre que je lui avais proposé pour le printemps dernier, à savoir « Où en sommes-nous avec l'idée de design ?». Ce titre reste tout à fait valable, mais la conférence que je vais faire ce soir, déjà écrite, et sera insérée dans un livre à paraître... Je pense au printemps prochain, qui sera le cinquième tome de la réédition de « Aquatian Design ». Et dans le livre, qui peut-être portera le titre de « Petit inventaire pour le design », je ne suis pas sûr encore que le titre soit adopté, dans le livre, le propos que je vais tenir ce soir, ça ne s'appellera pas « Où en sommes-nous avec l'idée de design ?», mais « Idéalisme ». Je voudrais faire un éloge de l'idéalisme, et évidemment, par contre-coup, faire une critique du réalisme. Voilà. Donc les choses sont liées. La critique de la notion d'environnement implique pour moi la critique d'un certain réalisme, au moins d'un certain réalisme. Alors j'ai prévu deux introductions, une petite et une plus longue. Pour le cas où vous manquez la plus petite, vous aurez la plus longue, un peu plus détaillée. Et ensuite, quatre parties, donc un raisonnement qui va se construire en quatre parties. Et pour vous rassurer, quand on arrivera à la quatrième, ça sera la plus courte, ça sera pas loin de la fin. Voilà. Alors, voici la première introduction que j'avais, je ne sais pas si je te l'avais adressée, peut-être que oui, peut-être que non, non, apparemment non. Donc, je propose de commencer de la manière suivante, design et designers sont devenus, comme vous le savez, des mots courants dans des langues comme la nôtre, le français, qui ne les possédaient pas autrefois dans leur lexique. C'est-à-dire que design n'est pas un mot de tradition française, comme vous le savez, mais néanmoins, maintenant, d'ailleurs, ça a été une partie de la bagarre des années 2000, de faire adopter dans un titre de diplôme d'université française un mot qui ne l'était pas a priori. Mais le mot est devenu courant. Il y a une sorte d'importation de ce mot qui s'est fait, d'ailleurs pas seulement dans la langue française, c'est pareil en allemand, c'est pareil en italien, etc. Cette importation d'un mot dans diverses langues, d'un mot anglo-saxon dans diverses langues, implique, c'est ce que je voudrais montrer, une certaine dissipation de l'idée que pourtant elle prétend nommer. C'est-à-dire, plus le mot design est prononcé, moins l'idée que ce mot est supposé nommé et en fait précise dans les esprits. Il y va en fait d'un changement de cap, je vais essayer de vous dire ça, il en sera allé dans toute cette histoire du mot design, depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, il en sera allé, je vais essayer de vous le montrer, d'un changement de cap et de perspective dont je crois, nous ne pourrons mesurer l'importance et l'enjeu qu'en nous proposant une tâche paradoxale et intempestive, inactuelle si vous préférez, à savoir penser de nouveau aux sources. Je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui si on veut étudier le design, c'est penser de nouveau à ses sources. Ça veut dire penser à ses sources, mais y penser peut-être d'une manière qui n'est pas celle avec laquelle jusqu'à présent on traite de ses sources. Donc la tâche paradoxale qui est devant nous, devant vous en tout cas qui êtes plus jeunes, penser de nouveau aux sources de ce que finalement on appelle design, même si c'est une appellation un peu confuse, et tenter en conséquence, une fois qu'on aura pensé de nouveau aux sources, tenter en conséquence de traduire quelque chose qui appartient au passé du design et dont il nous est beaucoup dit aujourd'hui autour de nous qu'il n'y a plus besoin. Je veux dire par là, j'entends beaucoup dire, je lis même souvent dans des livres que j'ai envie de critiquer, que la période dans laquelle le design, au sens moderne du mot, est né, cette période on peut l'appeler la modernité artistique, j'entends beaucoup dire que cette période, il ne faut plus trop y penser, elle serait par hypothèse derrière nous, je voudrais vous donner à penser le contraire. Je pense qu'il faut penser de nouveau, à cette période-là, qui est la période dans laquelle, non pas le mot design, mais l'idée de design, me semble-t-il, est née. Donc, après cette introduction, mon raisonnement se développera, comme je vous l'ai dit, en quatre temps, enfin après plutôt un petit développement quant à l'introduction, mon raisonnement se développera, comme je vous l'ai dit, en quatre temps. Et c'est une manière, je le rappelle, pour moi, de faire le point, à bientôt un quart de siècle de distance, sur l'entreprise qui a été la mienne de créer un diplôme universitaire impliquant le mot design dans son titre, et à l'époque, comme je vous l'ai dit en commençant tout à l'heure, en le joignant, ce mot de design, à celui d'environnement. La jointure de design à environnement était à l'époque, disons à la fin des années 90-2000, inévitable. Elle me semble aujourd'hui devenue discutable. Donc fin de la première introduction. Voulez-vous la deuxième? Je suppose que oui. Bon. C'est une question rhétorique. Alors, deuxième introduction. Il est clair, me semble-t-il, que le monde qui nous entoure aujourd'hui n'a pas, à l'égard de l'idée de design, le degré ou le type de considération qu'il avait naguère. Un mot, le mot de design, qui n'était pas banal, qui n'était pas même accepté il y a 25 ans dans la liste des intitulés de diplôme, et que seul, à l'époque, un milieu restreint de spécialistes acceptait de mettre de son côté ou de revendiquer. C'était comme ça, il y a 25 ans. Mais que dit aujourd'hui le mot dans la situation qui est maintenant la sienne? Pourquoi le faudrait-il? Pourquoi le faut-il tant? Pourquoi faut-il tant le dire dans des langues qui ne l'avaient pas traditionnellement dans leur dictionnaire? Même question pour des institutions comme les universités et les écoles d'art, qui, comme je vous l'ai déjà dit il y a quelques secondes, ne souhaitaient guère, il y a 25 ans, le prononcer. Je veux témoigner de ça publiquement. Il y a 25 ans, le mot « design » était un mot refusé à l'université et dans les écoles d'art. Et dans les écoles d'art. Je m'en souviens très très bien, pour avoir beaucoup fait de tournées à l'époque, pour expliquer pourquoi nous avions besoin de ce mot. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait paradoxal, ça s'est renversé complètement. Hein, là même où on n'en voulait pas il y a seulement 25 ans, on ne demande plus qu'à le prononcer aujourd'hui pour appeler peut-être des étudiants, et d'ailleurs les appeler à quoi, c'est tout ce qu'il faut justement préciser. Dans ce singulier et tout de même rapide sur le plan historique revirement réside, je crois, un malentendu. Nous ne faisons désormais, actuellement, si vous voulez, que désigner à peu près une sorte de tâche dont l'exigence n'est pas clairement définie. Le succès récent de l'appellation design est corrélatif d'un flou dont témoigne le fait que nous ne savons pas précisément traduire le mot. Si je vous demandais de dire design en français, que diriez-vous? C'est-à-dire, et c'est pas la seule langue qui empêche de traduire le mot anglo-saxon de design. Cette appellation avait, il y a encore 25 ans, une capacité d'étrangélisation qu'elle n'a plus. Dès lors, je me demande s'il ne serait pas aujourd'hui opportun, pour retrouver la capacité d'étrangélisation de design, d'examiner ce que recouvre la fréquence d'emploi de ce vocable. Manque, me semble-t-il, à cette fréquence d'emploi du vocable une certaine précision. Dans le vite dit et dans le facile à dire du mot aujourd'hui, s'estompe en fait toute une idée, je vais essayer de vous le montrer, d'en faire mieux. Cette expression est très importante, faire mieux, et elle est à comprendre. Je pense que le mot design sert à ne pas réfléchir. Aujourd'hui, le mot design sert, c'était aujourd'hui, le mot design sert à ne pas réfléchir à cette expression qui a pourtant figuré dans les textes historiques qui ont installé l'idée de design, l'idée d'en faire mieux. Faire mieux. Et il s'agit justement pour moi de rappeler ou d'essayer de rappeler ce que a pu vouloir dire cette expression. Alors, pour que ça soit clair, je l'ai trouvé dans un texte de Frank Lloyd Wright qui met le mot designer très explicitement, bien qu'il ne soit pas traduit dans la traduction française, qui est on met concepteur, et en américain, Wright disait designers, et il dit pourquoi avons-nous besoin de designers ? Et je vous passe les détails de la phrase, ça finit par « pour faire mieux ». Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire « faire mieux » ? C'est la question que je laisse en suspens au moins pendant quelques minutes. Historiquement, le mot « design » a de fait été appelé pour dire l'utilité et pour commencer la possibilité d'un travail supplémentaire. Évidemment, « faire mieux », c'est d'abord « faire ». Et puis, on peut faire un supplément au faire qui serait le faire mieux. Et l'un des tout premiers textes dont je vais vous reparler, où le mot designer figure dans son sens moderne, évoque très explicitement cette notion de supplément. Donc, qu'est-ce qu'a été l'idée de design pour commencer ? L'idée d'un travail supplémentaire dont ceux qui appelaient le mot à ce moment-là disaient qu'il était possible, pas sûr, mais possible de l'accomplir. Je souligne ces mots. Design a commencé par dire la possibilité d'un travail supplémentaire. Je souligne ces mots. Je parle bien de possibilité et je parle bien de supplément, c'est-à-dire de quelque chose à quoi les activités humaines, quoi qu'il semble aujourd'hui, ne se rapportent pas de manière inévitable. Le design, en tant qu'il s'est pensé comme un travail supplémentaire, historiquement en tout cas, ne s'est pas pensé comme une activité inévitable. Alors c'est peut-être ça le malentendu aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on aurait plutôt le sentiment qu'on ne peut pas se passer de design. Mais, ou source de cette affaire, c'est pas comme ça qu'on pensait les choses. On pensait le design comme la possibilité d'un travail supplémentaire, c'est-à-dire d'une conduite, d'une attitude, on va voir quel est le bon mot, qui n'était pas pensée a priori comme inévitable. Il en va évidemment d'un redoutable paradoxe, car si le design n'est pas une activité inévitable, s'il était resté dans le cadre de son idée originelle, comment soutenir qu'on consacre du temps et des budgets à ce qui, n'étant que supplémentaire, n'aurait par conséquent, comme je viens d'essayer de vous le dire, pas de nécessité. Si le design reste quelque chose qui se définit comme une possibilité supplémentaire à faire mieux, est-ce que ça vaut le coup de mettre tant d'argent dans des institutions pour former des étudiants à une activité qui ne serait qu'une activité supplémentaire ? Alors, dans ce doute quant à l'idée de design originel, quant à la pertinence de l'idée de design originel, ce doute, il est profondément réaliste. Je ne saurais répondre à ce réalisme qu'en lui opposant une notion et une attitude qu'il exclut par principe, à savoir la notion d'idéal et l'attitude de l'idéalisme. Peut-être pourrais-je dès lors suggérer, la formule suivante. Si l'appellation design peut aujourd'hui faire floresse, c'est parce que l'idée qu'elle est supposée défendre s'est elle-même offerte à une inclusion dans un réalisme qu'elle n'avait pas d'abord. Je vous redis cette phrase que j'ai soulignée moi-même sur mes notes. Voilà. Si l'appellation design peut aujourd'hui faire floresse, c'est parce que l'idée qu'elle est supposée défendre s'est offerte elle-même à une inclusion dans un réalisme qu'elle n'avait pas d'abord. Autrement dit, ceux qui portaient l'idée de design, historiquement, n'étaient pas des réalistes, mais les designers eux-mêmes, dans l'histoire, le siècle, disons, qui sépare l'origine moderne du mot, de son succès historique, le design lui-même, les designers eux-mêmes, se sont inclus dans un réalisme qui n'était pas celui de leur source. Voilà bien ce qui s'est passé. Ce qui n'était pas tout inclus l'est désormais. Le design, historiquement, n'est pas inclus, et il l'est désormais. Il s'est inclus dans la réalité du monde, dans le réalisme. Il ne l'était pas historiquement. Manque à cette inclusion désormais présente une valeur que, par définition, elle ignore, à savoir une certaine sorte d'émancipation. Je m'arrête un tout petit peu sur les mots. Inclusion, ça dit littéralement le contraire de émancipation. Je parle beaucoup latin quand je parle français. Je ne peux pas m'en empêcher. Et je pense aux sources des mots. Inclusion, vous avez le in latin qui veut dire dedans, et dans émancipation, vous avez le ex latin qui veut dire au contraire sortir. Donc ce que je pense, c'est que ceux qui ont installé parmi nous l'idée design historiquement avaient l'idée, une certaine idée d'émancipation chevillée à l'esprit, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui permet justement au design d'être davantage successful qu'il ne l'était. Aujourd'hui, peut-être, ceux qui sont porteurs de ce mot, ceux qui portent le mot dans leur phrase, sont plutôt que des émancipateurs, des incluants. Voilà. Donc il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on veut ? S'inclure ou s'émanciper ? Vous verrez que faire de cette question, je suppose, ultérieurement. Alors, j'en ai fini avec l'introduction. J'espère que j'ai à peu près correctement... je ne sais pas comment dire ça, définit l'ambiance du problème. Alors, ma première partie s'intitule « Le design qu'on n'attend pas ». Alors, je reviens sur les remarques linguistiques. « Design » est un mot de la langue anglaise. John Ruskin, que vous daterez de la seconde moitié du 19e siècle, qui était un Anglais, John Ruskin l'emploie en Angleterre dans la seconde moitié du 19e siècle pour traduire littéralement la notion liée à l'histoire de l'art pictural, à savoir le designio, dessin EN et dessin IN. Hein, donc quand Ruskin met le mot design dans ses textes, on est un peu après la moitié du 19e siècle. Design ne veut pas dire design au sens qui nous réunit ce soir. Mais et la traduction anglaise du designio, du fameux designio venu de la Renaissance italienne. Ce faisant, quand Ruskin emploie le mot, il le situe clairement dans le champ de l'art et non pas dans celui de ce que nous appelons aujourd'hui design. Et il le fait à un moment où tout de même déjà, à la Chambre des communes, on prononce le mot design dans un autre sens pour désigner non pas la nécessité, mais l'utilité qu'il y aurait d'un point de vue commercial à travailler l'allure des produits fabriqués dans les conditions d'une industrie désormais passée au mode industriel. Peu après ce moment que j'évoque, donc vous voyez que déjà il y a deux sens pour design. Le sens traditionnel dont Ruskin témoigne, et un sens qui est appelé dans un tout autre domaine, d'un point de vue commercial, et qui va aller vers certainement les connotations qui nous sont plus familières aujourd'hui. Peu après Ruskin, cette période que je viens d'évoquer, William Morris, qu'on présente à certains égards comme l'héritier de Ruskin, dit, lui, non pas « design », mais « arts and crafts ». Si donc nous voulons trouver ou chercher où le mot de design commence à se rapprocher du champ de signification qui lui serait propre, il faut aller ailleurs qu'en Angleterre et se tourner du côté d'un autre pays de langue anglaise, à savoir les États-Unis. C'est là que l'histoire du mot, au sens qui nous réunit ce soir, commence. On trouvera aux États-Unis l'un des textes inauguraux de la tradition de l'idée de design, à savoir le texte fameux de Sullivan, de Louis Sullivan, l'architecte, écrivant à propos d'une demande qui lui était adressée, celle de construire des immeubles de bureaux de grande taille. La publication du texte de Sullivan est quasi contemporaine, je le note et je vous le fais noter au passage, de l'invention du cinéma. Le texte de Sullivan, 1896, et on dit l'invention du cinéma, on dit, Godard n'était pas d'accord, mais peu importe, enfin pas peu importe, mais je veux dire, je ne vais pas entrer dans cette discussion, 1895, pour l'invention du cinéma, en fait, pour le couplage du projecteur avec la caméra. En fait, on invente la salle de projection en 1895, et pas le cinéma forcément. Bref, c'est les mêmes périodes. Le cinéma et le design, pour moi, sont des éléments dont l'historicité est extrêmement proche. Dans le texte Sullivan auquel je suis en train de faire référence, on trouve, vous trouvez la fameuse formule « Form ever follows function ». D'où je vais tirer pour ce soir deux remarques. La première remarque sur cette formule « Form ever follows function », première remarque, c'est que dans le texte de Sullivan, design vaut aussi, conformément aux usages de l'américain, pour architecture. Quand vous lisez l'ensemble du texte de Sullivan où il y a la fameuse formule, vous voyez bien que architecte ou designer, ce sont des mots qui peuvent s'échanger dans la logique argumentative du texte. Les deux mots, ils sont. Alors, qu'est-ce qu'un architecte ? En fait, je pourrais dire, au fond, la première, la lancée du mot design, ou designer, il vous est proposé, il nous aura été proposé de dire que ce mot vaut traduction pour architecte. Alors qu'est-ce qu'un architecte ? Qu'est-ce qu'un architecte ? Si on veut comprendre le texte de Sullivan, il faut se poser cette question. Depuis l'Antiquité, depuis Aristote, plus précisément, l'architecte, je vous dis le mot exprès en le décomposant, je parle aussi parfois un peu grec, pour parler français. Depuis Aristote, depuis l'Antiquité, l'architecte, c'est un homme qui a dans ses capacités celle de réaliser ce que le philosophe Aristote nomme graphée. L'architecte est celui qui réalise des graphées. Alors, réalise, c'est pas un mot grec, c'est un mot latin, et dans ce mot latin réaliser, vous entendez, je dis exprès comme ça, res, le mot latin res qui veut dire chose. Hein. Donc réaliser, c'est faire chose de quelque chose qui n'était pas déjà une chose. Hein. Ben, réaliser une idée, c'est faire quelque chose de cette idée. Alors l'architecte est celui qui réalise quelque chose qui a d'abord existé sur un autre mode qu'une chose en trois dimensions et que Aristote nomme graphée et qu'on peut traduire par plan. L'architecte est celui qui fait des plans, qui dessine des plans, écrit éventuellement des plans, et ensuite les réalise. Dans ces plans, cet homme, l'architecte, montre qu'il voit d'avance, c'est ce que veut dire le préfixe « archi », il montre qu'il voit d'avance ce qui, dans la construction qu'il va diriger en conséquence, sera construit à la fin, à savoir le toit, texture. L'architecte, c'est celui qui archive d'avance le dernier geste de la construction, la pose du toit, en tout cas dans les techniques de construction de l'époque. Donc il a une vue d'avance sur quelque chose qui n'a pas encore été fait et dont il peut diriger les étapes de construction. Voilà ce qu'est l'architecte au plus ancien sens que j'ai trouvé du mot. Autrement dit, l'architecte anticipe la construction. Architecturer, c'est anticiper à le construire. Et l'architecte planifie aux deux sens du verbe en français aujourd'hui. D'une part, il définit les étapes de la fabrication à venir, et en ce sens, encore une fois, il anticipe. D'autre part, il sait figurer le résultat de cette fabrication et la rendre convaincante par une image. L'architecte est celui qui met sous les yeux de quelqu'un une image convaincante d'une construction à venir. Aujourd'hui, au lieu d'une image, on pourrait mettre sous les yeux, pour convaincre, une maquette, par exemple, ou ce que vous voudrez à discuter tout à l'heure. Donc ça, c'est ma première remarque sur le texte de Sullivan. C'est un texte dans lequel designer vaut pour architecte, et architecte, je vous ai dit rapidement ce que c'était. Deuxième remarque sur le texte de Sullivan, c'est qu'il faut déterminer dans la formule « form ever follows function » ce qui compte le plus. Dans « form ever follows function », pour Sullivan, c'est-à-dire pour la définition de l'architecte et ou du designer, qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce que c'est « form » qui suit, « follows », ou est-ce que c'est « function » ? La réponse est claire dans le texte de Sullivan, et rejoint d'ailleurs le plus traditionnel dans la définition de la responsabilité du métier d'architecte. Ce qui compte le plus, qui fait que l'architecte et ou le designer mériteraient vraiment leur nom, ce qui compte le plus, c'est la forme. L'architecte, au sens de Sullivan, le designer, au sens de Sullivan, c'est quelqu'un dont la tâche particulière est pas de mettre au monde des choses qui fonctionnent, oui, c'est de mettre au monde des choses qui fonctionnent, mais pas seulement, il y a un travail supplémentaire qui est d'aller jusqu'à la forme. Et l'architecte et le designer, dans le texte de Sullivan, est responsable de la forme des choses qu'il a, par hypothèse, en tant qu'architecte, anticipé. Je ne vais pas définir de façon détaillée ce qu'il en est du registre de la forme, même si je vous dis que c'est ça qui compte le plus. Je vous renvoie, si vous permettez, Sophie en a parlé, à mon livre numérique « La tentation du service » dans lequel j'ai pris soin de mettre un chapitre entier qui est une lecture détaillée du texte de Sullivan. Et où la notion de forme bénéficie, si j'ose dire, d'un peu plus de définition que ce que je vais faire ce soir. Je souligne seulement pour ce soir que forme est dans le texte de Sullivan évoqué au titre, j'y reviens, d'un supplément que signifie la forme verbale follows, suit. Pour Sullivan, comme pour Frank Lloyd Wright, qui lui succédera sur cette ligne de pensée, c'est explicite dans les textes de Frank Lloyd Wright, il est le registre de la forme, ce à quoi l'on ne pense pas assez. Voilà ce que dit en substance Sullivan, quand il s'agit de comprendre ce que mon forme veut dire dans son texte. Qu'est-ce que c'est que la forme ? C'est ce à quoi on ne pense pas assez. Quand on a en vue de répondre à une demande fonctionnelle pour ce qu'elle s'entend elle-même demander. Alors là, je fais un petit pas dans le raisonnement. J'espère que vous me suivez toujours. Je vais vous expliquer ça de façon, j'espère, un peu plus claire. L'architecte ou le designer, ils sont l'objet d'une demande. Et en général, ce qu'on demande à l'architecte ou au designer, c'est de mettre au monde quelque chose qui est inscrit dans le registre d'une fonction. Il faut que ça soit fonctionnel et il faut que ça fonctionne. Voilà. C'est ça qu'on lui demande. Et cette demande ne s'entend pas, n'entend pas tout ce qu'elle demande en fait. Et en fait, ce que dit à mon sens Sullivan, c'est que l'architecte ou le designer, au sens moderne du mot, c'est quelqu'un qui est capable d'entendre, dans une demande qu'on lui adresse, plus que ce que le demandeur entend lui-même qu'il demande. Donc je vous répète ma formule, le registre de la forme, dans le texte inaugural de Sullivan, inaugural en tout cas pour moi, le registre de la forme est ce à quoi l'on ne pense pas assez quand on a en vue de répondre à une demande fonctionnelle pour ce qu'elle s'entend elle-même demander. Alors de quoi s'agit-il un peu plus précisément ? Je viens d'utiliser un adverbe « assez », ce à quoi l'on ne pense pas assez. Je viens donc d'utiliser cet adverbe dont nous ne savons généralement pas ou plus que sa valeur sémantique, que la valeur sémantique de cet adverbe résonne dans le mot « satisfaction ». Imaginez que je décompose le mot « satisfaction » en me souvenant de la signification latine, une fois de plus, du « satis » que vous entendez à l'origine, à l'entrée du mot « satisfaction ». « Satis »,« faire », littéralement, ça veut dire « faire assez ».« Satis », voilà. Pas plus. « Faire assez », et vous voyez comment les choses, j'espère, commencent à se nouer dans le raisonnement que j'essaye de construire. « Faire assez », c'est pas « faire plus », c'est « faire juste assez ». Voilà. Alors, si je suis un peu cohérent, et si le texte que je lis l'est aussi, le designer, en tant qu'il fait suivre quelque chose, hein, « follows », voilà, il va faire plus qu'assez. Autrement dit, il ne va pas seulement satisfaire la demande qu'on lui adresse. Si un maître d'ouvrage demande à un architecte de lui construire, par exemple, un immeuble de bureau, faut-il que je vous le rappelle, le cas de Sullivan, hein, puisque son texte est consacré à la construction des grands immeubles de bureaux dont il est un de ceux qui les a fait émerger à Chicago en particulier. Si un maître d'ouvrage demande à un architecte de lui construire un immeuble de bureau, ce maître d'ouvrage sera satisfait si cet architecte lui livre finalement un immeuble fonctionnant en ce sens, quelle que soit l'allure ou la forme de cet immeuble. Pourvu que ça soit satisfaisant, le maître d'ouvrage sera content. Ce qu'il peut en être de la forme de cet immeuble, s'il doit être tall, grand, pour traduire le titre de Sullivan, ou au contraire plutôt horizontal, le commanditaire, c'est pas son problème, pourvu que ça fonctionne. Voilà. Ce qu'il peut en être de la forme de l'immeuble qu'il demande à l'architecte de construire n'est pas explicitement présent dans la demande du maître d'ouvrage. Se poser par conséquent une question de ce point de vue, du point de vue de la forme, c'est la responsabilité propre de l'architecte et par extension du designer. Ce que le texte de Sullivan donne à penser, c'est que ceux qui ont la capacité, le pouvoir économique de demander qu'on mette au monde des objets ou des constructions qui fonctionnent dans un certain but, non seulement de fait ne pensent pas aux formes qui pourraient être produites ensuite en conséquence de leur initiative, mais même ne se sentent pas de responsabilité en cette matière. Ceux qui ont le pouvoir économique de demander que des choses soient construites dans le monde ne se soucient pas des formes et ne se sentent pas de responsabilité en cette matière. L'architecte au sens de Sullivan et le designer au sens de Sullivan, oui, lui, il se ou elle, bien sûr, il se soucie de ce que ceux qui ont le pouvoir économique de demander la mise au monde des objets ne se soucient pas, à savoir que cette mise au monde est une forme. Ils ne savent tout simplement pas, les commanditaires, les conditions et les enjeux des questions formelles. Ils ne savent tout simplement pas, ceux qui ont la puissance économique de faire exister des choses à ce niveau-là, dans le monde économique, ils ne savent tout simplement pas les conditions et les enjeux des conditions formelles. Ils n'ont pas ces conditions et ces enjeux à l'esprit. Plus encore, ils ne savent pas à quel point et pour quelle raison il y a là condition et enjeu. Si quelqu'un se préoccupe de ce savoir, c'est pour Sullivan l'architecte, du moins quand il entend faire, je vous cite une expression de Sullivan lui-même, une architecture véritable. Ce qui veut dire que ça se complique un petit peu, c'est qu'il y a les architectes véritables et ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui travaillent jusqu'à la forme et ceux qui s'arrêtent à faire des choses satisfaisantes. Vous traduisez pour designer. Il y a ceux qui vont travailler jusqu'à la forme en méditant sur les enjeux et la responsabilité de cette notion, et puis ceux qui vont se contenter de faire des objets satisfaisants, c'est-à-dire des objets qui fonctionnent et qui ont une fonction. Donc, si quelqu'un se préoccupe de toute cette affaire, c'est pour Sullivan l'architecte, du moins quand il entend faire une architecture véritable, c'est-à-dire une architecture qui ne se suffit pas de satisfaire à la demande, mais qui va jusqu'au bout de ses propres possibilités. Par extension, dans mon propos, je répète, c'est pour tout ce qui relève d'un bâtir, le designer qui a cette responsabilité à son tour. Mais j'insiste, car c'est l'une des raisons qui fait que design et designer sont des mots qui peuvent faire malentendu, ce n'est pas à ce titre que l'un et l'autre, l'architecte et le designer, sont requis. Ce qu'on demande plutôt à l'architecte et au designer, ce qui est dans la demande la plus immédiatement sociale, c'est de faire des choses qui fonctionnent, ce serait bien assez. Alors, deux remarques pour conclure cette première partie de mon raisonnement. J'irai plus vite après, je vous rassure. La première remarque qui va être vous allez peut-être avoir l'impression que j'oublie que j'ai deux remarques à faire, parce que la première remarque va vous sembler un peu longue, mais non, j'oublie pas. Je vais faire deux remarques avant de conclure ma première partie. Définir ce qu'il en est du registre de la forme, où par hypothèse, dans ma lecture, se tiendrait ce qui relève du champ lexical du design, tel que manié par des auteurs comme Sullivan ou Wright, un peu plus tard par Amaury Nagy, parvenu aux États-Unis et se mettant à employer le mot de design, ce qu'à ma connaissance il ne faisait pas dans sa période européenne. Définir ce qu'il en est du registre de la forme, produire une définition de forme, c'est sûrement ce que chacun d'entre vous souhaiterait que je fasse à présent pour clarifier sans doute les enjeux de mon propos. Je ne vais cependant pas le faire, et de nouveau pour deux raisons. La première, c'est que me livrer à la définition de la notion de forme, ce serait me livrer aussi, ou vous livrer aussi par contre-coup, à des questions très délicates, très très délicates, beaucoup trop longues pour une soirée comme celle-ci, qui nous réunit, à savoir, j'aurais une série, quelle est l'archéologie du mot forme ? D'où ça sort, qu'est-ce que ça veut dire, depuis quand on dit forme, avant on disait comment, quelle est l'archéologie de cette notion? Comment le mot passe-t-il d'une langue à une autre au cours de son histoire? Est-ce qu'il renvoie dans toute sa pérégrination à une seule notion? Est-ce que la signification du mot, de la notion de forme est univoque? Et surtout, qu'est-ce qui distingue une forme d'une apparence de forme? Alors, des questions comme ça sur forme, j'en ai un paquet. Donc je vais les laisser de côté pour ce soir. Je me suis efforcé de prendre en charge ce genre de questions dans d'autres occasions ou dans diverses publications. Le faire revenir sur ces sujets ce soir nous éloignerait du sujet plus particulier auquel je voudrais, si vous voulez bien, que nous consacrions le temps qui nous reste. D'autre part, il est loin d'être sûr que ce que nous pouvons appeler design au XXe siècle est répondu de manière unanime à cette question, qu'est-ce que la forme ? Je pense même, et là est justement le sujet plus particulièrement dont je voudrais vous entretenir, que si le mot design a été finalement adopté dans des aires géographiques qui n'étaient pas a priori disposées à le dire parce qu'elles n'étaient pas de langue anglaise, si donc ce mot a été adopté là où on ne parlait pas anglais, c'est en quelque sorte, voilà ma thèse pour ce soir, pour couvrir la difficulté qu'il y a à comprendre exactement ce qu'on a pu chercher à dire de spécifique par le mot de forme. En fait, je pense, et ça ma thèse un peu intellectuelle si vous voulez pour ce soir, c'est de dire que le mot design est devenu d'autant plus fréquent que le mot de forme s'est estompé dans les esprits. Et si le mot de forme s'est estompé dans les esprits, c'est parce qu'en fait, la notion même que ce mot entend désigner est extrêmement complexe et que, dans le monde même du design, on n'a jamais été d'accord sur sa signification. Et donc, c'est une façon, ne pas dire forme et dire à tout bout de champ design, c'est une façon de ne pas s'expliquer entre spécialistes, entre supposés spécialistes, sur une difficulté en fait essentielle. Voilà. Ils nous ont dit, ceux qui ont mis au monde l'idée de design, qu'il fallait travailler jusqu'à la forme. Mais ils ne nous ont pas dit ce que forme voulait dire. Et depuis, on cherche, en tout cas pendant une certaine période, on a cherché, et on a eu du mal à trouver, et on n'était pas d'accord, et finalement, on préfère se dire, bah, puisqu'on n'est pas d'accord, laissons tomber la difficulté, et disons design. On dit un mot que personne ne comprend vraiment, mais que tout le monde peut prononcer, et comme ça, le débat n'a pas vraiment lieu, et la difficulté est couverte. Voilà. C'est ça ma thèse pour ce soir. Je vais essayer de montrer par la suite quelques conséquences de cette affaire. Il y a un moment où le succès du mot design recouvre une difficulté théorique et conceptuelle qui est celle de comprendre ce que forme veut dire. C'est pourquoi d'ailleurs le design n'est pas une discipline stricte mais quelque chose d'assez plastique, qui suit des variations d'interprétation sur sa propre perspective. Deuxième remarque, j'avais dit, je ne dirais pas que j'avais deux remarques à faire avant de conclure ma première partie. Revenons à Sullivan. Quelle que soit la difficulté qu'il y a à interpréter ce que forme veut dire dans le propos même de Sullivan, une chose est sûre, c'est qu'il dit ce propos, c'est qu'il dit Sullivan, qu'il y a quelque chose à faire au-delà de la réponse la plus fonctionnelle à la commandite d'une fabrication ou d'un appareillage. Certes, cette réponse est première, et nous ne devons pas oublier cette primauté dans notre compréhension de la notion de design. Précise, je dis, je soutiens l'idée que ceux qui ont lancé le mot design nous ont dit qu'il faut aller au-delà de la fonction, follows, jusqu'à la forme. Ils n'ont évidemment pas dit « il faut se passer des fonctions ». C'est ça que je suis en train de dire pour conclure ma première partie. Donc, faire des choses qui fonctionnent et qui répondent à des fonctions, ça fait aussi partie de l'idée de design, même si ça ne suffit pas à faire comprendre l'idée de design. Comme ne cessera de le rappeler bien plus tard, à la fin du XXe siècle, Otto Eicher par exemple, un design qui ne s'occuperait que de formes ne serait plus qu'un formalisme, en dernière analyse complice, dit-il, d'un monde qui fonctionne mal. Eicher prend dans tel ou tel de ses textes un exemple très très simple, celui d'une poignée de porte qui aurait été dessinée pour la forme et que personne n'arriverait à saisir, qui serait mal commode et qui par conséquent fonctionnerait mal. Et il dit, bah, ça c'est pas du design. Donc il ne faut pas commencer par la forme. Donc si c'est follows, il ne faut pas commencer par la forme. Mais il ne faut pas s'arrêter à la fonction par laquelle on commence. Voilà la thèse. Le bon fonctionnement, si on s'arrêtait à donc la thèse, c'est qu'il faut bien prendre en compte les fonctions, mais pas s'arrêter aux fonctions. Le bon fonctionnement, si on s'arrêtait au bon fonctionnement, on ne ferait pas du design, on ferait de l'ergonomie. Voilà. Donc la fonction, le fonctionnement ne suffit pas, même s'il faut commencer par là, à justifier que le design soit un travail supplémentaire. Il y a peut-être dès le début une sorte de malentendu sur le mot. D'un côté, ceux qui demandaient aux designers de travailler les attendaient sur le plan des fonctions et des fonctionnements. De l'autre, j'en termine avec ma première partie, ceux qui entendaient répondre spécifiquement du mot design, et ceux-là ne trouvaient pas négligeable l'attente des premiers qui veulent que ça fonctionne aussi bien que possible, enfin, aussi fonctionnellement que possible, mais ceux qui répondent spécifiquement du mot design ne trouvent pas pour eux qu'il soit essentiel ou suffisant de s'en tenir aux fonctions. Donc, d'entrée de jeu, le design est dans un malentendu entre ceux qui le commandent, ceux qui ont la commandite quant à lui, et ceux qui ont la responsabilité de ce qu'il est. Les uns sont du côté des fonctions, les autres du côté de la forme, et il y a un malentendu à l'origine sur la tâche. Alors, deuxième partie de mon exposé de ce soir, je suppose entendu ce que je viens d'essayer de dire, et cette deuxième partie, je l'intitule « Exercer une fonction ». Alors, la question est de savoir si la situation historique qui a fait de forme un enjeu vaut toujours. Si, comme j'ai tendance à le penser, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si ce que nous entendons beaucoup autour de nous, ce que vous entendez sûrement beaucoup autour de vous, ce sont des demandes qui s'inscrivent dans le registre de la fonctionnalité et pas dans le registre des formes. C'est un peu comme si c'était plus une question. Voilà. J'ai tendance à penser que la situation qui a fait qu'un temps, y compris dans le milieu des designers, on a un temps considéré comme essentiel le mot de forme, et aujourd'hui peut-être beaucoup moins. C'est-à-dire que peut-être les designers se rapprochent de ceux pour qui fonction est quelque chose d'essentiel. Si c'est vrai tout ce que j'essaie de dire là, qu'est-ce qui a pu motiver la réorientation dans l'esprit même des designers de leur discipline, et quelles en sont les conséquences? Cette question que j'essaie de poser, là, dans ma deuxième partie, devrait être l'affaire des historiens. C'est-à-dire, je pense qu'on peut attendre des historiens du design qui nous expliquent quelles ont été les réorientations du mot, l'esprit de la chose, dans l'esprit même des designers, au cours du siècle, du gros siècle, qui nous sépare de l'arrivée de ce mot dans le souci des humains. Je ne suis pas historien, je n'ai pas la compétence des historiens, je ne suis pas, par conséquent, pas capable de répondre à toute la question que j'essaye de poser. Qu'est-ce qui expliquerait que le monde se soit réorienté au cours de son histoire? Mais ce que je peux faire, moi qui ne suis pas historien, c'est préciser ce qui, dans l'affaire, est susceptible d'être engagé du côté des conditions de la pensée. Mon hypothèse, ma suggestion, c'est de dire que ce qui a été oublié sur la route de l'histoire, c'est l'idée que forme pouvait suivre, je répète, fonction, autrement dit, qu'on pouvait, sous le nom devenu propre ou spécifique de design, réaliser une alliance de ces deux notions, en l'occurrence faire ou mettre au monde des choses où de la forme pouvait advenir à de la fonctionnalité. Chacun doit pouvoir comprendre que dans cette alliance, la fonction n'était pas une fin, elle l'est devenue. Ce à quoi on s'est de plus en plus intéressé, ce à quoi le mot de design a servi dans une sorte de dérive dont je vais encore reparler tout à l'heure, c'est à définir non plus une suite, mais un entour. Ce qui s'est passé dans l'histoire de la notion, c'est que, bon, elle commence, j'espère que j'ai assez dit maintenant, avec un verbe essentiel « follows », suivre, et s'est installé, à partir de quand je vais y revenir, mais à un moment donné, ça se réoriente, et ce qui devient essentiel, c'est pas ce qui suit les fonctions, « form ever follows function », ce qui devient important, c'est ce qui les entoure, les environnements. Il y a un moment dans l'histoire, que je vais dater, les années 50, où la cause, si vous voulez, des designers, c'est pas de s'intéresser à ce qui peut s'en suivre formellement d'objets fonctionnels, mais ce qui les intéresse, c'est ce qui entoure les fonctions. Ou si vous préférez, donc, ce qui fait environnement pour les fonctions. Le problème à mes yeux, c'est qu'en cherchant à davantage étudier ce qui peut environner une fonction, on n'en sort pas. On n'en sort pas comme on en sortait, on ne s'émancipe pas. On n'en sort pas avec elle comme on pouvait chercher à s'en sortir dans la première période de l'histoire du design. Bref, on ne s'en émancipe pas, et pour le dire dans mon langage, je vais commenter, on ne l'exerce pas comme il est arrivé qu'on l'exerce. C'est-à-dire, ça va, vous êtes encore en forme ou c'est un peu... Bon, là, il faut se concentrer, il y a un petit passage conceptuel. Ça ira ? Bon. Donc, la critique que je fais à la notion d'environnement, l'une des critiques que je fais, en tout cas maintenant, à la notion d'environnement, c'est qu'elle est, si vous voulez, complémentaire ou complice de la notion de fonction, qu'elle ne permet pas de penser ce que pourrait être cette fameuse suite qui serait une forme. On ne sort pas des fonctions et des fonctionnements, on essaie de les améliorer, mais dans le registre de la fonction et du fonctionnement, alors que peut-être la première idée de design, c'était de sortir, non pas d'oublier le registre des fonctions et des fonctionnements, mais d'en sortir et d'en sortir manifestement par quelque chose qui serait judicieux d'appeler une forme. Alors j'essaye de dire tout ça très philosophiquement ou très conceptuellement en disant le problème pour moi de la notion d'environnement, c'est qu'elle ne permet pas de comprendre qu'est-ce que c'est que exercer une fonction. Et bien sûr, je vais définir ce que j'entends par là. Faisons encore donc, si vous voulez bien, un petit effort de réflexion. Je prends le mot exercice littéralement, étymologiquement, une fois de plus. Exercice est un terme composé. Il y a une sorte de préfixe ex qui veut dire sortie et une sorte de suffixe, ercis qui est de même racine que arcane et qui renvoie au verbe latin arcere qui veut dire tenir au secret, enfermé. Donc, je saute tout ce que je me suis mis sous les yeux. Exercer, ça veut dire sortir, percer de quelque chose qui est au secret. C'est-à-dire rendre manifeste quelque chose qui est enclos dans une arcane. Originellement, c'est une boîte à bijoux dans laquelle on enferme les bijoux, justement, mais au secret. Exercer une fonction, ça serait la sortir de ces conditions de sécrétion. Et je pense qu'il y a un lien, je vais essayer de vous dire ça, qu'il y a un lien entre l'exercice d'une fonction et la recherche d'une forme. Mais quand on est dans la logique des entours et des environnements, on ne cherche pas à exercer les fonctions, on cherche juste à les faire au mieux fonctionner en tant que fonction. Et donc, il y a un lien à faire pour comprendre l'ambition historique du design que je n'arrive pas à nommer mieux, même si c'est compliqué, qu'en jouant sur ce mot « exercice » ou « exercer » comme je viens de le faire. L'exercice tel que je l'entends a rapport avec le fait de rendre manifeste ou évident ce qui se trouve enfermé. Exercer une technique, dans ce cas-là, ça voudrait dire rendre évidente cette technique, les ressorts secrets de cette technique. Et je pense qu'il y a un lien entre la recherche des formes, je le répète, je viens de le dire, et l'exercice d'une technique au sens que je viens de dire. D'ailleurs, évidence, voilà encore un mot à prendre en considération. Évidence. Encore, il faut parler latin. Videre, évidence, voir. Et le ex qui est au début du mot, moi je le comprends comme ça saute aux yeux. C'est ça l'évidence. Ce qui vous saute aux yeux, c'est évident. Ce qui est clair, c'est évident. Ce qui est lumineux, c'est évident. Par extension, ce qui n'est pas dans l'ombre, c'est évident. C'est-à-dire ce qui n'est pas caché ou ce qui n'est pas couvert. Découvrir, ça c'est une tâche qui intéresse l'exercice des fonctions. Et l'exercice des fonctions, ça intéresse le design. Mais dès qu'il y a exercice d'une fonction au sens que je viens de dire, il y a quelque chose qui saute aux yeux, qui devient lumineux, qui ne l'était pas, mais qui le devient, c'est une forme. La question qui, à la fois, est d'ordre conceptuel général et à la fois intéresse l'histoire de la notion de design, et de savoir si les fonctions ont besoin de cette sorte d'exercice et d'évidence que je viens d'essayer de définir pour vous. Et la réponse est loin d'être positive. Tous les fonctionnements des objets techniques, toutes les techniques, ne sont pas exerçables au sens que je viens de dire. Alors évidemment, il faudrait longtemps pour le montrer, je l'affirme simplement. Toutes les techniques, tous les fonctionnements ne sont pas exerçables au sens que je viens de dire. Pour aller à la forme, il faut par conséquent, qui veut aller à la forme, doit par conséquent commencer par une analyse critique des fonctionnements. Cette analyse est critique en ce sens que critiquer veut dire d'abord tamiser, séparer, distinguer. Je parle le vieux grec pour dire ça, krinein, d'où vient critique, ça veut dire tamiser, séparer, distinguer. Donc, le travail du design ne finit pas avec ce que je vais vous dire à l'instant, il commence avec ce que je vais vous dire à l'instant, il finit avec la forme, etc. Mais il ne peut pas ne pas commencer par une analyse critique, critique des fonctionnements techniques, des techniques. Et cette analyse est critique parce qu'il s'agit de séparer les techniques exerçables, au sens que j'ai essayé de dire, et celles qui ne le sont pas. Et si elles ne le sont pas, les techniques exerçables, alors le design n'y est pas possible. Puisque le design consiste précisément, dans l'idée que j'essaye de soutenir devant vous ce soir, à exercer la technique. Voilà. S'il y a des techniques non exerçables, si jamais il s'avérait à l'étude qu'il y a des techniques non exerçables, alors le design tel que je pense qu'on peut le comprendre à partir de sa définition historique serait impossible. Le constructeur qui n'entend pas seulement rendre fonctionnelle sa construction, mais bel et bien la former, doit se demander ce qui peut, dans cette construction, en elle, par conséquent, être découvert ou exercé. Pour comprendre, si vous voulez, plus concrètement de quoi il peut s'agir, pensez, si vous voulez, suggestion que je vous fais, à ce qu'on appelle volontiers en architecture, ou dans un bâtiment plutôt, infrastructure. Le terme d'infrastructure pour un bâtiment est une façon de régler la question que j'essaye de réfléchir avec vous ce soir sans la poser vraiment. Le designer qui ferait de la forme son affaire, lui, va interroger le champ. Qu'est-ce qui est infrastructure dans un bâtiment ? Donc si c'est infra, ce n'est pas découvert. Hein, voilà. Mais qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre d'une infrastructure dans un bâtiment ? Le designer qui ferait de la forme son affaire se demandera si tous les appareillages, les fils, les circuits, les tuyaux qui permettent à une maison de fonctionner dans son époque doivent être ou non apparents, et si oui, dans quelle mesure. Et tout ce qui pourra apparaître, il le fera apparaître. Tout ce qui pourra passer à l'évidence, il le fera passer à l'évidence. Ce que les fonctionnements ne requièrent pas nécessairement. Même remarque pour ce qui concerne les éléments porteurs, dès lors que ces éléments ne sont pas des murs, mais par exemple des structures métalliques. Est-ce qu'on peut les découvrir quand on construit un bâtiment à partir de structures métalliques ? Les murs porteurs, c'est plus difficile, enfin, ils sont là. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec les structures métalliques ? On les montre, on les cache, on les enclôt, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est des questions de design. Par exemple, je résumerai tout ça en évoquant les notions de cloison et de cloisonnement. Dans sa ligne générale, le travail en direction des formes n'aura pas contesté absolument tout ce qui est de l'ordre, de la carrosserie et de l'apparence, mais il n'en aura pas fait un principe, ou plutôt il en aura fait un champ de responsabilité. D'une certaine manière, le designer tel qu'appelé dans les textes de Sullivan et de Wright est celui qui répond de l'exercice et ou de l'évidence des fonctionnements, et qui pour cela répond de la pertinence des cloisonnements. Il les ôte, les cloisonnements, quand il lui semble utile de le faire pour la forme et pour qu'il y ait forme. Découvrir, décloisonner, ça pourrait être la ligne de travail en direction des formes. Aujourd'hui, nous avons sans doute plus que jamais à faire, vous avez sans doute plus que jamais à faire, plus que jamais, je pense, dans l'histoire de l'humanité, vous avez affaire à des fonctionnements qui impliquent une technicité cachée. Je ne crois pas qu'on ait jamais vu dans l'histoire d'objets techniques qui nous environnent, qui impliquent des technicités cachées, de la technicité cachée. Et là, il y a une grande responsabilité du design. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce qui est caché dans les objets techniques qui nous environnent aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut les former, ces objets ? Ou bien est-ce qu'ils ne sont pas exerçables au sens que j'ai défini il y a quelques minutes ? Bien des objets qui fonctionnent pour nous ne requièrent pas d'être exercés au sens que je disais il y a quelques minutes. Nous faisons à grande échelle aujourd'hui usage d'objets qui recèlent des automates et des relais de pilotage dont nous ignorons non seulement la nature, mais même le placement. Beaucoup d'objets qui sont dans notre environnement quotidien impliquent, recèlent des automates et des relais de pilotage dont nous ne savons ni la nature, ni même le placement dans l'objet. C'est au secret. Certes, ces objets, comme je l'ai dit, fonctionne pour nous, mais il fonctionne aussi sans nous et par-devers nous. La question est de savoir si cette situation oblige à opérer un tournant quant à l'idée de design elle-même. Est-ce que nous aurions passé un seuil de fonctionnalité tel que nous ne pourrions plus que très résiduellement vivre dans un monde formé? Je vous laisse avec cette question, provisoirement, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure dans la discussion, et j'entame la troisième partie, que j'ai intitulée « Le tournant historique » ou « La notion d'environnement comme rival de la notion de forme ». Alors, le désespoir peut-être, qui pourrait se lier à la perspective de vivre dans un monde sans forme, dans un monde où les objets techniques ne pourraient pas être exercés, hein, ils impliqueraient des technologies irrémédiablement recelées ou cachées. C'est désespérant que les choses soient cachées pour nous, qu'elles fonctionnent malgré nous. Voilà. Le design, ce n'est pas désespérant dans sa formulation historique. Le fait qu'il y ait des formes, que les choses soient évidentes, ce n'est pas désespérant. Mais peut-être que nous sommes aujourd'hui dans une situation où les techniques sont au fond désespérantes parce qu'on ne peut plus les former. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, le désespoir menaçant, qu'est-ce qu'on fait? On y cède ou il y a une porte de sortie? Voilà ma question. Le désespoir lié à la perspective de vivre dans un monde sans forme peut être grand aujourd'hui. La tâche de faire forme peut sembler nous excéder. Comme souvent en pareil cas, nombreux sont ceux qui, au lieu d'affronter le problème en le reposant, en maintenant la pertinence, se retournent contre l'espoir ou l'idéal qu'il y a eu et qu'ils n'ont plus. Je pense que si la notion de design a bougé, si le mot de design a bougé quant à son sens, c'est signe quelque part d'un certain désespoir quant à la possibilité de former le monde. Et au lieu de se coltiner la difficulté, on l'évite. Et on dit, bah tant pis, on va faire du design, mais ça ne sera plus pour la forme. Voilà. Donc on remodèle, on refait la définition de la notion. Mais peut-être qu'il y a une solution, à ça, qui est simplement l'idéalisme dont je vous parlais en commençant et sur quoi j'en conclurai dans quelques minutes. Les phrases ne manquent pas aujourd'hui qui assassinent les premiers auteurs de l'idée de design et qui refusent de voir que pour eux déjà, le design paraissait une tâche difficile. Pour ne pas trop désespérer de l'idée historique du design, je vous propose pour commencer ceci, de dire, mais ça a toujours été difficile le design. Ça a toujours été, c'est pas spécifiquement aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui, mais de toute façon, ça a toujours été difficile, le design. À l'idéalisme sans lequel la perspective de cette tâche qu'est la mise au monde de forme, à l'idéalisme sans lequel la perspective de cette tâche ne pouvait être soutenue, il est malheureusement aujourd'hui plus guère prêté de pertinence. Une question tout de même. Si tout les fondateurs de l'idée de design n'avaient plus aucune opportunité, faudrait-il même le dire autant que cela qu'il ne nous concerne plus? Alors je fais allusion là de façon très implicite, je règle des comptes implicitement avec des livres que j'ai lus ces derniers temps et qui ne me plaisent pas du tout. Voilà. Je ne vais pas au-delà de l'explicitation de l'allusion. Mais je me demande, pour moi il y a un paradoxe, c'est-à-dire les gens qui attaquent la modernité, la période où le design est né, les gens qui attaquent le fondateur de l'idée de design, Sullivan, Wright, Gropius, Le Baos, enfin, etc., tout ça, si c'est des gens qui comptent plus, si cette idée lancée il y a un peu plus de 100 ans est une idée devenue faible, pourquoi passer tant de temps à polémiquer contre elle? Voilà. On voit bien que l'espoir, je vois bien par là, que l'espoir qui s'est lié au mot de design dès son origine, en réalité n'est pas mort. Voilà. Je trouve ça encourageant. Je trouve que l'énergie que mettent les adversaires de l'idée historique du design à essayer encore de l'assassiner, cette énergie-là signale que cette idée n'est pas morte. Donc, finalement, paradoxalement, elle est matière à espoir. Regardons par conséquent ce qui peut nous être proposé en échange, si j'ose dire, de cette supposée illusion à perdre. Si la notion de forme n'est pas une perspective, si même avoir travaillé en son sens doit être pensé comme une erreur, ce n'est pas ma position, vous aurez compris, à quoi l'abandon de l'idée historique de design peut-elle laisser la place? À quoi ceux qui, ou celle qui assassine l'idée historique de design laisse-t-elle place pour remplir d'un sens ce mot design, pour remplir d'une signification ce mot design? Chacun peut évidemment répondre à ce genre de questions subjectivement de ce point de vue, mais on peut aussi l'examiner de façon plus objective. Car la secondarisation de la notion de forme a un précédent historique. Ce précédent historique, c'est celui de l'école d'Ulm. Je pense, Sophie, que je ne t'apprendrai rien, c'est même plutôt toi qui m'as appris des choses sur cette affaire. La secondarisation de la notion de forme a un précédent historique, celui de l'école d'Ulm, qui a été prise, comme vous savez peut-être, entre trois personnalités, Max Biel, Otto Eicher et Thomas Maldonado. Et deux directions majeures, celle de Max Biel d'abord, celle de Maldonado pour finir. Et c'est ce passage d'une direction à l'autre qu'il faut, à mon avis, encore étudier. C'est là que, un tournant plus ou moins désespérant quant à l'idée de design a probablement eu lieu. Avec le passage de la direction Max Biel à la direction Maldonado, s'est estompée la prégnance des mots clés en allemand de Gestalt et de Gestaltung, qui est dans le titre même de l'école, qui était dans les statuts du Bauhaus d'ailleurs déjà. Avec le changement de direction au Bauhaus, s'est estompée la prégnance des mots clés, historiquement clés aussi en Europe, Gestalt et Gestaltung, c'est-à-dire par traduction, forme et élaboration formelle. Ces mots, ce champ de mots, était familier au Bauhaus de Gropius. C'était sa référence première, quand bien même les termes Gestalt et Gestaltung que prononçait Gropius dans tel ou tel article pouvaient se retrouver traduits par design dans leur publication américaine. Cette traduction de Gestalt et Gestaltung, qui est au cœur du projet du Bauhaus, puis de l'école d'une première direction, Cette traduction de Gestalt par design est plus problématique qu'il ne paraît. Comprendre pourquoi le champ sémantique de ces mots Gestalt et Gestaltung, qui a fait motif par deux fois en Europe, donc au Bauhaus d'abord, à Ulm ensuite, a été rendu par design plutôt que par forme, est une affaire qui mériterait qu'on s'y intéresse, car déjà elle signale un certain flou dans l'idée même de design. La mise à l'écart de Max Biel à Ulm n'est donc pas qu'une affaire de personne. Elle signifie aussi que, malgré l'intitulé de l'école concernée, les mots Gestalt et Gestaltung pouvaient cesser d'apparaître comme essentiels à la compréhension de celui de design. Pour le dire autrement, elle signifie que la mise en jeu de ce dernier mot, design, était en mesure de se faire avec d'autres connotations que celles de forme. Le problème, ce n'est pas que tout cet écartement des valeurs de Gestalt et de Gestaltung soit incohérent. Au contraire, ça n'est pas le cas. Les thèses de Maldonado sont tout à fait cohérentes. Le problème, c'est que nous ne pensons pas assez comme un enjeu de taille que le fait que design soit devenu dans l'affaire un nom, somme toute, assez vague. Quand en Europe, on cesse de dire Gestalt et Gestaltung et qu'on se met à dire à la place design, en fait, alors que Gestalt et Gestaltung, ça a une signification précise. Le mot qu'on met à la place, design, en Europe, ça n'a pas une signification précise. Le mot, au fond, à partir de ce moment-là, se désigne lui-même, il est redondant. Qu'est-ce que veut dire design? Ben, design veut dire design. Voilà. C'est pas la même chose si vous dites design, mais c'est une façon de traduire Gestalt, par exemple. Là, vous donnez une signification. Il y a un moment, en tout cas, dans les pays qui ne sont pas de langue anglaise, et qui ne disaient pas design, qui se mettent à dire design, ils se mettent à le dire pour dire un mot redondant, voilà, qui n'est pas véritablement défini. Qu'est-ce qui reste de la signification historique de design si on le prive de sa traduction par forme? Réponse, il reste de la fonction, un ensemble de fonctions rapportées les unes aux autres dans un monde conçu lui-même comme systémique, c'est-à-dire, le chic de ce mot systémique ne doit pas nous égarer, comme relevant d'une obédience fonctionnelle. Cet ensemble se synthétise dans la notion d'environnement. Dans l'histoire du design, cette notion aura été peu ou prou, à partir d'un certain moment en tout cas, la rivale de celle de forme. Ce que j'espère vous faire comprendre, c'est qu'il a été possible, quoique pas mieux, de ne plus espérer de la relation de design à forme. Voilà, si je me retourne sur l'histoire du design, voilà ce que je pense, après toutes ces années d'études sur l'affaire, c'est qu'il y a un moment où c'est pas mieux, mais le fait est, où on n'espère plus de la relation de design à forme, mais on mise, c'est pas la même chose, hein, miser et espérer. On n'espère plus de la relation de design à forme, mais on mise sur la relation de design à environnement. Il y a pour ça maintenant, vous avez derrière vous maintenant pour ça une tradition. Demandons-nous tout de même à quoi cela peut bien convenir. La tâche de ceux qui opèrent dans le champ des environnements n'est-elle pas ipso facto d'améliorer les fonctions et les fonctionnements? En perdant de vue la notion de forme, on a peut-être facilité l'emploi du mot design, on l'a rendu plus courant, plus proche des demandes sociales, davantage capable d'être commandité, mais sûrement pas, en faisant ça, approfondi la compréhension initiale de ce mot. C'est pourquoi je trouve utile, aujourd'hui, de refaire le travail de traduction, c'est-à-dire de chercher, même dans la seule langue native américaine, à quoi ce mot a pu être associé. Alors, c'est un exercice, au sens banal du mot, que je vous propose. Si en français, vous essayiez de vous priver du mot « design », que diriez-vous? Cherchez. Essayez de dire design sans dire design. Voilà. Mais on peut faire le travail même dans la langue américaine. Et chercher, par exemple chez Sullivan, quels sont les mots équivalents à designer dans le fameux texte où je suis parti ce soir. Et c'est ma quatrième partie. Elle sera courte. Et comme ça, on pourra discuter un petit peu. Le design comme idéal. Donc chez Sullivan, comme je vous l'ai dit maintes fois ce soir, je crains même de m'être un peu souvent répété, ce fut à forme, mais aussi selon une équivalence ou une traduction par lui-même proposée dans son texte, à celui de sentiment, que le mot design renvoie, si vous voulez, par traduction interne dans l'américain de Sullivan. Alors c'est intéressant qu'il dit, la véritable architecture ou le véritable design, c'est ce qui aboutit à la forme ou qui donne lieu à l'existence d'un sentiment. Bon. Alors j'essaye de le prononcer comme je peux à l'américaine, je pourrais dire sentiment. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même un mot, sentiment est un mot plus international, et Sullivan aurait pu dire feeling dans le contexte de son propos, il ne dit pas feeling, il dit sentiment. Et ça m'a beaucoup intrigué. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi ce mot-là, plutôt que feeling, était venu sous la plume de Sullivan pour donner un équivalent du mot design. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire travailler des objets de telle sorte qu'il y en ait non seulement usage satisfaisant, mais encore sentiment? Donc des objets designés pour Sullivan, ce sont des objets qui donnent lieu à un sentiment, pas seulement à un usage satisfaisant, fonctionnel, mais à un sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire travailler des objets de telle sorte qu'il y en ait non pas seulement usage, mais encore, parce que it follows, hein, mais encore sentiment. Même sorte d'interrogation concernant Gropius. À quoi les mots Gestalt et Gestaltung sont-ils chez lui dans ses textes associés? Réponse aux deux questions, je vais vite parce qu'il est tard, et puis les arguments, j'ai essayé de les proposer ailleurs. Il s'agit que puisse se produire une sorte de perceptibilité des capacités techniques du monde. Qu'est-ce que veut dire sentiment, à mon avis, sentiment, dans le texte Que signifie ce mot dans le texte de Saint-Jean ? Les objets dont nous aurions, par hypothèse, le sentiment, qui auraient été architecturés au sens de Sullivan, qui serait un fait de design au sens de Sullivan, sont des objets tels que, avec eux, auprès d'eux, peut se produire une certaine sorte de perceptibilité des capacités tactiques du monde. Bon, c'est le cohérent, je pense, avec la notion d'exercice que je vous proposais il y a quelques minutes. Un designer qui aujourd'hui partirait du principe que ce genre de réponse n'est pas à jeter pourrait en venir à penser qu'est par là concerné, qu'à du reste d'entrée de jeu était par là concerné, non pas un objectif, mais un idéal. Qu'il y ait une certaine perceptibilité des capacités techniques, un sentiment de la technique, que nous puissions donner à ceux qui ne sont pas des techniciens, des producteurs de technique, un sentiment de la technique, ce n'est pas un objectif, mais un idéal. La forme, ce n'est pas un objectif, mais un idéal, etc. Pour remonter tout mon raisonnement. Peut-être que la mutation qui fait passer de forme à environnement, elle est contemporaine ou elle est cohérente avec le fait de passer d'une définition idéale ou idéaliste d'une tâche, qui s'appellerait design, à une définition réaliste d'une tâche qui s'appellerait, hélas, aussi design, et qui viserait à atteindre des objectifs. Voilà. La forme, à mon avis, pour les initiateurs du design, c'est quelque chose dont on a le sentiment, mais qui n'est pas un objectif, qui ne s'atteint pas comme s'atteint un objectif, qui ne s'obtient pas comme on obtient d'atteindre un objectif. Le designer qui dirait qu'il est designer par idéal, qu'il n'a pas d'objectif, qu'il cherche des formes, ce designer aurait peut-être du mal aujourd'hui à se faire comprendre des plus professionnels de ses camarades, mais au moins, il ne commettrait pas l'erreur fréquente de déshonorer l'idée qui tout de même a ouvert la voie à la profession. Le propre d'un idéal, c'est d'excéder la réussite. Je vous le redis ça, parce que pour moi c'est très important. Le propre d'un idéal, c'est d'excéder la réussite. Du moins, si réussir veut dire atteindre un but qu'on a projeté d'atteindre. Il est arrivé à Gropius de définir son école comme un laboratoire et à Paul Klee, qui y enseigna durablement, de penser que, bien que les conditions ne fussent pas réunies, il fallait tout de même travailler en ce sens. Faire laboratoire. Mais un laboratoire, ça n'est pas un lieu où l'on sait faire, c'est un lieu où l'on cherche à faire. C'est pas la même chose. Lisant Paul Klee aussi bien que Gropius, je soutiens contre beaucoup aujourd'hui la modestie réelle de leurs propos. Wright, Frank Lloyd Wright, pensait lui-même de son côté non pas le mieux, comme s'il en avait la clé, mais seulement mieux en impliquant les savoir-faire d'époque dans une exigence faisant supplément à l'efficacité de la routine de ces savoir-faire d'époque. Soit dit en passant, faire mieux, ça n'est pas exactement faire bien. Alors, il y a un petit problème de logique là. Faire le mieux, c'est pas la même chose que faire mieux. Faire mieux, c'est pas forcément le mieux. Le mieux, c'est pas le... C'est une petite nuance, là. Mais mieux, par exemple, si vous faites moins mal, vous faites mieux. Mais vous faites pas le mieux. Vous comprenez ? C'est là qu'il y a toute la logique de l'idéalisme. Voilà. C'est-à-dire que... C'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient modestes, les Paul Klee, les Gropius, quoi qu'on leur fasse supporter aujourd'hui, ou les Sullivan, ou les Frank Lloyd Wright, ils étaient modestes. C'est-à-dire qu'ils prétendaient pas... Faut lire leurs textes, vraiment. Faut pas dire c'est derrière nous tout ça. Faut les lire. Et si vous les lisez, vous verrez que quand Frank Lloyd Wright dit il faut chercher à faire mieux, il ne dit pas qu'il a la prétention d'atteindre la réussite parfaite, c'est-à-dire faire le mieux. Voilà. Il y a une modestie derrière tout ça. Il n'y a pas d'idéaliste qui ne soit modeste, par définition, puisque l'idéal excède la possibilité de faire à hauteur d'idéal. En revanche, les gens qui atteignent les objectifs, ils ne sont pas modestes du tout, ils sont dans la réussite. Voilà. Bon, je pense que je me suis assez expliqué sur cette question. Je pose donc que le design est à la fois, c'est la même chose en réalité, dans son idée historique, idéaliste et modeste. Je veux pour terminer préciser que l'exigence de faire mieux n'est pas nécessairement étrangère, il faut quand même le dire, à la notion d'environnement. Mais si on veut bien, si vous voulez bien y penser, elle implique l'exigence de faire mieux, d'idéaliser la notion d'environnement. Pour le dire vite, un environnement exigé par l'idéal formel, ce serait un environnement travaillé par l'idée de prendre pour cela en compte le perceptible plutôt que le stimulant, et de ménager en conséquence l'espace, pas aménager l'espace, mais ménager l'espace. Donc je reprends ma phrase. Un environnement exigé par l'idéal formel, ce serait un environnement travaillé par l'idée de prendre pour cela en compte le perceptible et non pas le stimulant, et de ménager en conséquence l'espace, d'ouvrir en tout cas un sentiment capable de manquer aux logiques environnementales, à savoir le sentiment de spatialité. S'il était personne, c'est ma dernière phrase, après on peut discuter autant que vous voulez, s'il n'était personne pour travailler dans le sens que j'ai essayé de vous dire ce soir, alors nous pourrions dire que design est devenu, est le nom symptomatique d'une idée qui a dérivé et qui, dérivant, a perdu sa valeur d'idéal. S'il n'est personne pour reprendre ce que je viens de vous dire, à savoir chercher à faire non pas du stimulant, mais du perceptible, et à ménager l'espace plutôt que faire tourner les environnements, s'il n'y a personne pour prendre en charge cette perspective, alors nous pourrions dire que design est devenu le nom symptomatique d'une idée qui a dérivé et qui, en dérivant, a perdu sa valeur d'idéal, ce que je ne souhaite à personne, au moins parmi nous. Voilà. D'envisager la technique, c'est ça. Donc, oublions pas ça. Alors, premièrement, grosso modo, pour ce soir, dans l'état où je suis parvenu, je vous réponds oui. Dans mon discours de ce soir, je pense que technique et fonction sont des mots à peu près équivalents. Ou plutôt, dans la mesure où entre fonction et fonctionnement, plutôt avec fonctionnement, c'est-à-dire qu'une technique, c'est des liaisons fonctionnelles entre des pièces. Voilà. C'est-à-dire mécanique, si vous préférez aussi, on peut dire quelque chose comme ça. Donc, grosso modo, pour mon exposé de ce soir, je pense que ces notions fonctionnent, ces mots fonctionnent, sont deux mots pour dire à peu près la même chose. En revanche, envisager la technique, ah oui, alors là, il peut y avoir plusieurs façons d'envisager la technique, justement. On peut, par exemple, on peut l'envisager de manière à nicher au sein d'un dispositif les pièces les plus fonctionnelles, par exemple. C'est-à-dire à les enfermer. Ou on peut aussi, et tout le rapport du design à la technique, à mon avis, se situe là, On peut aussi, ce que j'ai essayé de dire peut-être rapidement ou pas assez clairement, exercer. Et donc on n'envisagera pas de la même manière. Peut-être que pour une même fonction, il y a plusieurs fonctionnements qui peuvent être envisagés. Et peut-être que pour des fonctionnements de même perspective, il peut être envisagé des fonctionnements plus ou moins cloisonnés, ou plus ou moins découverts. Donc, grosso modo, technique et fonction, c'est la même chose dans l'exposé de ce soir, mais envisager la technique de diverses façons, oui, c'est tout l'enjeu.
Merci beaucoup. Alors, j'ai entendu dans vos propos la notion de transparence qui revenait. Est-ce que pour vous, du coup, le designer se rapproche à celui qui va faire de la convivialité au sens de Nietzsche, donc qui va rendre transparent cette technique et donc émanciper les usagers de leur statut d'usager?
Et donc émanciper, vous avez dit?
Émanciper les usagers, c'est-à-dire faire en sorte que les usagers se réapproprier la proposition du designer.
Ouais.
Ne plus avoir besoin de lui.
Voilà. Je dirais pas les choses. Ça ne tient pas grand-chose, hein, les différences de pensée. Moi, je ne dirais pas émanciper les usagers. Je dirais plutôt. Émanciper nous autres, moi, ceux qui ne sont pas designers, nous autres, je ne leur donne pas de nom. Dans les textes que j'ai pu écrire, je me suis expliqué là-dessus, je ne nous appelle pas d'un nom particulier, à part celui d'humain. Donc nous autres, alors nous ne sommes pas tous designers, nous ne sommes pas tous, en tout cas je n'en suis pas, professionnellement, je ne suis pas un inventeur dans le champ des techniques, etc. Alors qu'est-ce que je suis? Je ne serai que un usager de techniques que les autres auraient inventées pour moi. Non, je ne suis pas que ça. Ma vie est riche de toute une série de choses dans lesquelles je ne suis pas un usager des techniques. Et heureusement, bon, je me propose de raisonner comme ça. Nous n'avons pas de nom, fondamentalement. Et donc je ne cherche pas à émanciper les usagers qui resteraient des usagers, qui seraient toujours des usagers émancipés. Peut-être qu'il y a un enjeu, et je pense que c'est lié à la notion de perceptibilité que je vous ai proposée à la fin ou à celle de forme, qui est de dire que il faut nous émanciper de l'usage. Voilà. Et que des objets qui peuvent être utilisés, qui peuvent entrer en usage, dont on peut user, dont je peux user, est-ce que ces objets sont nécessairement des objets d'usage? Voilà. La réponse est non. Il y a des tas d'objets qui peuvent servir, qui peuvent entrer en usage, et qu'on peut laisser de côté. C'est même la définition fondamentale de ce que veut dire utile, à mon avis. Utile, ça ne veut pas dire que ça sert nécessairement. Utile, c'est ce qui peut servir. Mais ce qui peut servir peut aussi bien ne pas servir. C'est-à-dire que si ça sert obligatoirement, c'est plus un objet utile. Si on ne peut pas s'en passer, c'est plus un objet utile. C'est un objet indispensable, c'est un objet nécessaire. L'utilité implique l'inutilité. C'est un paradoxe. Et je raisonner dans tous les sens, je suis à peu près sûr d'avoir raison sur cette affaire. Voilà. Et donc, le problème, justement, c'est que la poussée de l'industrie contemporaine nous enferme dans la situation d'usager inévitablement. Je pense qu'un design au sens idéal que j'ai essayé de soutenir est un design non pas qui émancipe les usages, mais qui émancipe de l'usage même. C'est-à-dire qui met au monde des objets dont on peut se passer paradoxalement. Voilà. Et par exemple, quand on ne fait que regarder, que percevoir, quand c'est là pour la forme, c'est intéressant. Alors le paradoxe, je m'arrête là-dessus, et c'est très difficile, c'est que le design, c'est pas tout à fait l'art de ce point de vue-là, c'est qu'il s'agit de mettre au monde des objets qui peuvent servir, donc il y a bien un registre de fonctionnalité et d'usage, mais qui ne font pas que ça.
Merci. Merci Pierre-Denis. En fait, je voulais peut-être relancer personne d'avant, qui est au sujet de la transparence. La personne a commencé par ça, par demander, par dire qu'elle avait cru entendre dans ton propos la notion de transparence. Et je t'imagine une réponse.
Ah bah, okay.
Je te laisse revenir dessus. Ou alors peut-être te lancer sur cette réponse-là, qui serait peut-être la différence entre la transparence et peut-être la franchise. On peut entendre aujourd'hui, on peut entendre la transparence en un sens moral qui s'approche de celui de la franchise, mais il me semble que tu soutiendrais plutôt ce mot-là que cet autre, celui-ci de franchise que de transparence, et que même peut-être dans certains cas, la franchise implique une absence de transparence au sens matériel du mot cette fois, au sens moral. Je te laisse peut-être poursuivre parce que c'est ton
histoire. Oui, tu fais bien de me relancer sur transparence parce que j'ai laissé passer ce mot que vous m'avez glissé dans l'oreille. Je ne pense pas avoir utilisé ce mot dans mon exposé. Je pense pas parce que c'est un mot que j'évite soigneusement. J'ai dû plutôt dire évidence. Voilà. Et y a quand même une raison à ça, c'est que. C'est pas sûr que tout puisse transparaître. Par exemple, peut-être y a-t-il, en dehors des questions qui nous intéressent ce soir, disons des objets, raisonnons en général sur la notion, il y a peut-être, je veux dire des choses simplement, enfin je sais pas quoi, oui, des choses qui nous concernent, nous autres les humains, et qu'il faut protéger. Qu'il ne faut pas exposer. Je ne fais pas de rien de ce que j'ai dit ce soir quelque chose qui soit absolument systématique. Il y a peut-être des choses qu'il faut mettre à l'abri. C'est peut-être très important. Autrement dit, si le design c'est le contraire de la mise à l'abri, on n'a pas besoin de design partout, nous les humains, nous autres. On n'a pas besoin que le design soit partout. Moi pas en tout cas. Bien que j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à soutenir cette notion, j'ai pas besoin, je pense qu'il faut dire ça aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin, nous les humains, que le design soit partout. Parce qu'il y a des choses que nous avons peut-être besoin de laisser. Voilà. Bon. On peut peut-être, ça sera moins dramatique, de transposer ce raisonnement à des situations techniques. Je l'ai dit au passage, c'est un vrai problème. Et qui suppose qu'on fasse des études des situations et des objets techniques, il y a peut-être des techniques qui ne peuvent pas être exposées. Peut-être. Alors il faut regarder, il faut étudier et se demander dans ce cas-là, si vraiment elles ne peuvent pas être exposées, alors se dire, là, il y a du design impossible. Là, il y a la possibilité de design. C'est tout. Moi, il ne faut pas prétendre faire du design là où il n'est pas possible d'en faire. Ça serait mon idée. Et qu'en fait, pour soutenir l'idée de design aujourd'hui, nous avons peut-être besoin de dire que cette idée, il n'est pas bon pour elle qu'elle se répande partout. Alors, pour répondre dans les termes de ta question à toi, je fais de la franchise en général une valeur morale. C'est-à-dire, je pense que c'est mieux d'être franc que de ne pas l'être. Voilà. C'est pas forcément successful d'être franc. Il y a plein de situations sociales, malheureusement, où la réussite, pour utiliser une notion que j'ai mise en jeu ce soir, requiert qu'on ne soit pas franc. Tout le monde sait ça. Voilà. Mais moi, je pense que ce n'est pas bien, pour le dire de façon extrêmement sommaire, ce n'est pas bien de ne pas être franc. Donc, moralement, je soutiens la franchise le plus possible, etc. Il y a même des philosophes qui étaient très exigeants. Je pense à Kant, un petit texte de Kant, hein, d'un prétendu droit de mentir par l'humanité qui soutient que c'est jamais autre chose que la franchise. Donc je soutiens la franchise sur le plan moral. Et cependant, il y a peut-être des situations. Alors, il faudrait distinguer. C'est compliqué, c'est des questions compliquées. Peut-être que la franchise avec ses proches. C'est une exigence absolue. peut-être que la franchise avec ses semblables, l'anglais proche c'est l'intimité, c'est la vie privée, peut-être que la franchise avec ses semblables, pour moi semblable c'est le nom qui désigne la société, les relations sociales, on est des semblables en société. Peut-être que là, on peut discuter, peut-être qu'il y a des situations sociales dans lesquelles, c'est à discuter. Pour les objets, disons que ça serait un idéal, c'est-à-dire plus on peut les affranchir, les techniques, mieux c'est. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elles sont toutes affranchissables. On est de toute façon dans une situation où on hérite de politiques techniques qui ont mis au monde d'énormes machineries qui ne sont pas franches. Une centrale nucléaire, par exemple, comment on peut affranchir ça ? Voilà. Il faut bien gérer, comme on dit aujourd'hui, ce genre d'héritage. Voilà. Donc, la seule réponse que je puisse donner à cette question, c'est que c'est une valeur, c'est un idéal, mais par définition, cet idéal ne peut pas exister partout, et d'autre part, nous autres, je répète, nous n'avons pas besoin que le design soit partout. Nous avons besoin qu'il soit là où il est bien qu'il soit.
Je profite du fait que le micro est encore dans le temps, mais je ne peux pas monopoliser la parole pour ajouter aussi ce que j'avais en tête, qui me semble peut-être d'un texte ou peut-être d'une conversation, je ne me souviens plus précisément, mais qui est que la franchise, ça peut impliquer, même parfois, il me semble, matériellement, de faire un objet opaque, et qu'il est plus franc quand il est opaque, si sa fonction est de fermer. Voilà. Et il me semble que j'ai le souvenir d'une conversation, ça te revient peut-être, l'exemple des portiques dans le métro, qui sont... Ou alors c'est
bon, ah non, mais attends, il ne faut pas qu'on rentre dans une conversation privée. Oui,
hein. Non, mais je pense à complète.
Ah oui, mais non, mais ce à quoi tu me fais penser, c'est qu'il y a des objets hypocrites.
C'est vrai.
Oui, alors ça, c'est par exemple dans le métro, vous savez, il y a les tourniquets pas du tout élégants qui font beaucoup de bruit, là où on a du mal à passer quand on a une valise, etc. Puis après, il y a les portes transparentes. Oui, ça c'est pour répondre à la notion de transparence. Pourquoi le mot transparent, je l'utilise pas ? Là, j'ai affaire à des portes transparentes qui sont d'une hypocrisie incroyable. Parce qu'en réalité, c'est pour enfermer. Donc enfermer dans la transparence, c'est quand même quelque chose qui me choque. Alors si on dit que ça c'est du design, les bras m'en tombent. Voilà. Ça c'est du mensonge. C'est faire passer pour transparent quelque chose qui, en réalité, est une fermeture. Bon, si c'est ça que tu voulais que je dise, je le dis. Voilà. Et l'évidence dont j'ai parlé dans mon propos, c'est évidemment pas ça. Un objet évident, c'est pas nécessairement un objet transparent au sens matériel du terme.
Merci.
Est-ce que la personne qui parle peut lever le bras parce que... Ah d'accord.
J'ai posé une question qui fait écho à une lecture que j'ai vue sur Terre, qui est de nécessité d'un poème de Christophe Gill, et qui en gros, la thèse du livre, c'est de dire que dans le modernisme, il y a un mépris pour la notion de nécessité.
J'ai beaucoup de mal à vous comprendre, excusez-moi.
Bien sûr, je vais répondre. Ouais. En gros, j'ai une lecture intéressante qui date de hier sur... De nécessité d'un poème de Christophe Gill. Et en gros, la thèse du livre, c'est de dire que chez les modernistes, il y a un mépris de la notion de nécessité.
Un mépris de la notion de
nécessité. De domesticité. Domesticité.
Domesticité ?
Ouais. Et qui est lié à tout un nombre de présupposés de l'époque du genre. Et il y a un exemple qui touche à la question de la transparence, justement, autour de la maison Farnsworth House de Maïs Van Der Hoe.
J'arrive pas à comprendre. Ça résonne pour moi, je ne sais pas ce qui se passe.
La maison transparente,
En fait, la question, c'est est-ce que la domesticité est un enjeu de design, ou peut-être au contraire, peut-être que la domesticité est un enjeu qui devrait être préservé de ce design et de cette mise en transparence. C'est la question vraiment très naïve que je me pose. Désolé pour la compréhension de ma question.
Alors, j'ai eu du mal à entendre, mais pas c'est pas une question. On pourrait dire, ça résonnait beaucoup. Bon. RE, dans mon oreille. Deux choses, si j'ai bien entendu votre question. Alors, la première, c'est pour dire que modernisme est une notion que j'emploie pas, que j'ai même critiquée. En tout cas, je pense que ceux qu'on est fondé, d'après moi, à appeler des modernes, donc par exemple, mettons Gropius là-dedans, se sont pas eux-mêmes définis comme des modernistes. Le modernisme, si cette notion tient le coup, ce qui mériterait quand même qu'on regarde de près. Quand est-ce que le mot est arrivé? Qui nous l'a mis sous les yeux ou dans les oreilles? Pourquoi? Bon, aujourd'hui, c'est devenu un mot qui a l'air d'aller de soi. Mais ceux qu'on attaque, quand j'ai fait un peu de polémique tout à l'heure, en fait, je pensais à des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on nomme modernistes des gens qui ne se sont jamais eux-mêmes définis comme tels. Alors, d'où vient le mot? D'où vient sa définition? Quelle est sa portée au juste? Le modernisme, je crois qu'on peut, si on en fait vraiment un concept, le définir comme étant la volonté, comme résultant de la volonté de déblayer le passé et de produire quelque chose à nouveau frais, qui serait tout à fait nouveau. Les modernes en art voyaient la définition du mot chez Baudelaire. Quand Baudelaire met le mot modernité dans la langue française, c'est lui qui le met dans la langue française, il demande à son lecteur, c'est explicite dans le texte, de lui passer le mot parce qu'il n'est pas français. Donc modernité est un mot qui date du 19e, qui est précisément défini à ce moment-là, introduit dans la langue par Baudelaire, et qui signifie tout autre chose que ce qu'on fait porter comme signification aujourd'hui au mot modernisme. Et je pense que ces gens-là, par exemple, si vous lisez les textes de Klee et de Kordinsky, vous verrez que ce n'est pas du tout des gens qui déblayent le passé, ce ne sont pas des modernistes. Voilà. Ce sont des modernes, c'est-à-dire des gens qui mettent en tension le passé et l'aujourd'hui, qui sont conscients et manifestent ou cherchent à manifester l'écart entre l'autrefois et aujourd'hui. Mais quand vous manifestez l'écart entre autrefois et aujourd'hui, vous ne ruinez pas autrefois. Vous dites simplement qu'il y a une distance entre les deux. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je crois que je peux répondre à ce que j'ai compris de votre remarque sur le mobilier, en gros, la domesticité, si j'ai bien compris le mot. L'un des objets fétiches du Bauhaus, c'est la chaise dite de Breuer, ou le siège, ou le fauteuil, bon, peu importe. Bah, ça, c'est un objet classique par excellence. Une chaise, c'est une chaise. Sur la chaise de Breuer, vous vous asseyez, pas tout à fait comme j'y viens, mais vous vous asseyez fonctionnellement, c'est une chaise. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Pourquoi ils ont fait un objet mobilier? Quel est l'enjeu dans l'affaire? Alors, d'abord, la chaise n'a pas tout à fait les mêmes propriétés tactiles, physiques, que les chaises traditionnelles, parce que, par exemple, l'assise en cuir et puis la structure métallique ont une élasticité que n'a pas un siège avec quatre pieds traditionnels, etc. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chaise, pas tout à fait le même siège, pas tout à fait la même sorte d'assise, mais ils l'ont faite comme ils l'ont faite parce qu'il s'agissait de dire le monde d'aujourd'hui a comme industrie, alors c'est ce que dit très explicitement Gropius à ce moment-là, le monde d'aujourd'hui, son industrie majeure, c'est plus l'industrie du bois, c'est le métal, la métallurgie, etc. Et il s'agit de manifester dans le mobilier la distance entre les conditions d'existence d'aujourd'hui qui sont fondées sur une industrie qui n'existait pas il y a quelques centaines d'années, donc faire moderne, pas moderniser, mais faire moderne, marquer l'écart, voilà. En produisant des objets qui exercent les techniques d'aujourd'hui, donc la structure métallique associée d'ailleurs à un morceau de cuir qui lui est une pièce d'industrie plus traditionnelle. Donc dans cet objet-là, vous avez l'association de quelque chose qui exerce une technique contemporaine et qui est associée à une technique d'autrefois. C'est un objet de la modernité. Et c'est ça qu'ils ont voulu faire, manifester la possibilité d'articuler le présent et l'autrefois. Et ils l'ont fait notamment avec des objets domestiques. Est-ce que j'ai répondu ?
Est-ce qu'au sens de l'écran, différenciation entre les notions d'incirculité et stimulation ?
Est-ce que
au sens de l'écran, différenciation entre la notion d'incirculité et stimulation ?
Il y a un problème avec les haut-parleurs. Moi, je ne sais pas si. Vous entendez ?
Je réponds à la question de la différence entre la perceptibilité et la stimulation.
Entre la perceptibilité et
la stimulation. La stimulation.
La simulation.
Non, stimulation.
Simulation.
Simulation.
Stimulation.
Ah, pardon. Perceptibilité. Ah oui, d'accord, je vois pourquoi. Bon. Alors excusez-moi parce que je sais pas, j'entends pas bien. Il y a trop d'écho. Mais quand je parle, vous m'entendez ? Ouais, bah, c'est moi le problème. Donc, merci. Un stimulant. Ça serait quelque chose à quoi. À la réponse, enfin, c'est quelque chose dont la réponse est dirigée par la chose elle-même. Il y a une façon de dire ça, c'est qu'on ne peut pas ne pas aller dans le sens de ce qui nous stimule. On ne peut pas ne pas. C'est orienté indépendamment de nous. Disons qu'on est dans une obligation, c'est même pas une réponse, quoi. Ou alors si c'est une réponse, c'est une réponse obligée. Alors que le perceptible, c'est toute une discussion que bon, il y a un livre d'Agamben qui s'appelle L'Ouvert, dans lequel il discute, il répercute enfin la façon dont Heidegger a lu un texte d'un zoologue qui s'appelait Wexkull, qui avait étudié la perception animale. Et en particulier d'un animal extrêmement sommaire qui est une tique. Et quand la tique quand entre dans le périmètre de perception de la tique, un animal à poil et à sang chaud, elle ne peut pas ne pas se laisser tomber sur cet animal et lui sucer le sang. Elle ne peut pas ne pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la tique, une fois qu'elle a fait ça, elle pond des œufs et elle meurt. Donc, elle n'a qu'une seule réaction dans sa vie, définitive, totale, absolue. Alors, c'est commenté très philosophiquement par Heidegger, repris par Agamben, et ça, je trouve ça très intéressant. J'en ai fait des cours ici pendant des années de cette affaire-là. Et c'est commenté par eux deux, là, en disant la tique ne perçoit pas l'objet en tant que tel. Elle ne le perçoit que comme un excitant absolu, un stimulant total. Et elle se laisse tomber à en mourir. Voilà. Alors, bon, il faut nuancer tout ça, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont opposé à Heidegger et à Agamben à la perception de la tique, l'idée que l'être humain, lui, peut percevoir un objet en tant que tel. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'on pourrait traduire en disant « pour rien ». Que quand on est dans la perception de quelque chose, on ne perçoit pas pour faire quelque chose de la chose. Voilà. Alors c'est ça que je mets dans perceptibilité. Je prends un autre exemple, moins dramatique. je regarde une voûte gothique. Voilà. Et je dis, c'est beau. Bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je ne fais rien de la voûte gothique. Évidemment, j'en fais rien. Elle me dépasse littéralement. Et d'autre part, il y a de fortes chances que le bâtiment que je suis en train de regarder soit lui-même devenu un monument historique, c'est-à-dire qu'il ne sert plus à grand-chose, sinon à faire de l'industrie culturelle. Enfin, disons, il n'a plus d'usage, il n'est plus dans sa fonction de bâtiment originel. Ben, là, je suis dans la perceptibilité du bâtiment. Voilà. Donc, il y a quelque chose, on peut jouer d'ailleurs avec les mots en disant, on perçoit pour la forme. Comme on dit, faire quelque chose pour la forme, ça veut dire... pour la forme, vous voyez comment ça résonne en français, cette expression-là. Voilà, je mets ça dans perceptibilité. C'est-à-dire, au fond, un objet perceptible, c'est un objet qui nous arrête au moins un petit peu sur sa forme, et qu'on regarde, qu'on écoute, que je ne sais pas, en tout cas, avec qui on entre en relation pour rien. On n'en fait rien. Un petit moment, un petit peu, etc. Voilà. Un petit peu de non-usage, au moins.
Bonsoir. Vous m'entendez ? Une petite question. Parmi les designers actuels, est-ce qu'il y en aurait un que vous voulez nous parler un peu qui réaliserait encore l'idée du design que vous avez essayé de définir ce soir ?
Non, c'est pas qu'il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que je n'ai pas de nom à vous proposer. Il faut demander à Sophie, elle en connaît bien plus que moi. Et en plus, bon, pour être un tout petit peu plus sérieux, je dirais que je m'intéresse beaucoup, le design anonyme. C'est-à-dire le fait que ça travaille un peu partout, mais ce n'est pas forcément signé. Il n'y a pas forcément de revendication sous un nom de quelque chose qui serait extrêmement intéressant. Mais bon, la prochaine fois que je fais une conférence, je viens avec des références. Je ne recommence plus.
Une deuxième question. Vous l'avez un peu dit ce soir et vous dites souvent dans le texte. L'enjeu de l'art ou du design, un des enjeux en tout cas serait de découvrir des inventions techniques, une fois que les inventions ont été faites, elles n'ont pas encore été découvertes. Et je voulais savoir, si on prend cette caractérisation en général, qu'est-ce qui distingue de manière précise le design de l'art ? Et est-ce que c'est une différence de nature ? Est-ce que c'est une différence de degré ?
Vaste question. D'abord, cette question, elle a elle-même plusieurs strates historiques, parce que si vous me posez la question, disons, en 1900, je ne vous réponds pas comme en 1950, et pas comme en 2000, et pas comme en 2000, quasiment 25. Voilà. Parce que l'idée d'art elle-même a bougé entre-temps, comme l'idée de design, etc. Donc c'est quand même une question très compliquée. Dans le travail que j'ai fait, par exemple, en particulier dans mon livre sur le Bauhaus, art et industrie, enfin depuis le Bauhaus, disons, j'ai essayé de montrer ça, que il y a toute une période historique dans laquelle les mots art et industrie sont des mots complémentaires. Si vous lisez le texte d'un théoricien de la peinture de la fin du XVIIe, qui s'appelait Roger de Pile. Donc c'est pas dur à montrer, hein. Il suffit d'être patient, vous lisez le texte et vous relevez à chaque fois qu'il y a industrie, à chaque fois qu'il y a art, et vous verrez très bien que c'est des mots qui se complètent parfaitement, qui s'échangent. Donc il parle, Roger de Pile, sans problème, de l'industrie du peintre. Aujourd'hui, on ne dirait pas ça. Aujourd'hui, le champ lexical de art et le champ lexical de l'industrie se sont séparés. Donc il faut faire un travail archéologique un petit peu, qui est de savoir quand est-ce que ça s'est séparé, le champ lexical de ces deux mots, pour quelles raisons, etc. Bon, donc on lit Baudelaire, par exemple, ou un certain nombre de gens, c'est là que ça se passe. Je pense que Baudelaire est celui qui acte dans la langue française de la séparation entre le registre lexical de l'art et celui de l'industrie. À cause, il le fait dans le texte où il critique l'industrie photographique. Et on est donc arrivé, et c'est le moment où arrive, en mon exposé de ce soir, les premiers usages modernes du mot design, dans un moment où art et industrie désignent des choses différentes. Donc il y a un certain souci dont l'art ou les artistes ont la charge, et un autre qui est l'affaire des industriels au sens moderne. Ah, d'ailleurs, l'adjectif lui-même industriel, hein, il n'est pas de tout temps. Avant, on dit industrieux, donc il y a un moment où industriel arrive, c'est le même. Bon. Tout ça est des phénomènes de langue assez intéressants, je pense, à étudier. Et je pense qu'on peut définir le design, ça serait une autre conférence que celle de ce soir, mais on pourrait définir l'initiation du mot design comme étant le fait de gens qui sont maintenant dans un état de la culture où art et industrie se sont séparés, mais qui, en travaillant dans l'industrie, essayent d'y faire venir un certain souci dont le mot art a la charge désormais. Donc je pense que les premiers qui ont fait du design, donc disons le Bauhaus, encore une fois, pour aller vite, mais pas que, hein, on pourrait parler d'Adolf Loos, on pourrait parler de Sullivan, en fait, etc. Bon, ils se sont mis au travail dans le champ, dans la sphère, comme on dirait aujourd'hui, de l'industrie, mais en ayant en tête des questions qui sont par ailleurs, dont se chargeaient par ailleurs les artistes. Donc faire exister quelque chose de l'art dans l'industrie, ça a été l'affaire. Mais j'oublie votre question littéralement en répondant comme ça.
Si on veut schématiser, c'était est-ce que vous voyez une différence de nature ou une différence de degré, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte la notion historique.
Après, je peux vous faire.
Le concept, est-ce que.
Je peux vous faire une réponse autorisée qui serait celle de Ott Eicher, à mon avis, hein, dans des textes qui sont publiés en Allemagne en 1995, pour vous le situer. Donc on est quand même assez proche de nous. Et Ott Eicher a des phrases extrêmement dures contre les artistes qui veulent faire du design et qui posent le problème dans un mauvais sens parce qu'ils veulent commencer par les formes. Et je lui dis au passage à ma conférence, c'est pas la bonne méthode, dit-il. Et de ce point de vue-là, il est un héritier de Form Ever Follows Function. Il faut commencer par les opérations fonctionnelles. Donc la réponse de Eicher, ce serait de vous dire les artistes ont en charge des questions formelles pures, indépendamment des mises en fonction et en fonctionnement. Donc ils fabriquent des objets qu'on appelle des œuvres, mais qui ne sont pas fonctionnels, qui n'ont pas de fonction au sens des objets techniques, et le design est dans le champ de la technique en ayant toujours, après, un souci formel. Maintenant, est-ce que l'art contemporain d'aujourd'hui assumerait la définition que je viens de vous dire, que j'ai trouvée chez Ott Eicher, c'est-à-dire les artistes se chargent des formes pures? Je ne suis pas sûr. Donc aujourd'hui, quelle est la réponse? Demandez donc aux artistes. Demandez donc aux artistes qui se définissent eux-mêmes et qui définissent pourquoi ils font de l'art. Et pourquoi ce mot leur importe, le mot artiste. Et on verra bien. Moi, je n'ai plus de compétences pour répondre à cette question concernant l'art.
Tu as évoqué des situations où finalement la fonction prendrait le pas sur la forme. Aujourd'hui, on a aussi des situations où on a un surplus de forme. C'est-à-dire qu'on est presque embarrassé de forme. Quelle différence tu ferais entre ce type de forme qui nous rencontre et les autres?
Ça fait deux questions qui sont dans la série. Vous auriez dû faire une autre conférence, enfin. Non, je dis ça en plaisantant, bien entendu. En fait, ce que tu évoques comme question, je l'ai évoqué d'un mot, enfin d'une phrase, en disant que je ne pouvais pas le traiter ce soir parce que déjà j'étais long. Et c'est le moment où je dis, enfin je pense que je l'ai dit, je ne pense pas que j'ai sauté le passage qui était sur mes notes, il faudrait distinguer entre une forme, réellement une forme, et une apparence de forme. Et je pense que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire, si on veut dire, tout ce qui du côté de la société marche, par exemple, les ordinateurs a fait revenir le mot de forme il y a quoi, il y a 20 ans, c'est complètement hypocrite, parce qu'en fait, ce dont il s'agit, c'est ce que j'appelle dans mon travail des apparences de forme. Il faut juste, alors ça, c'est un travail, évidemment, il faut étudier, il faut des étudiants pour ça, il faut des gens qui acceptent d'étudier. Et qu'on se pose des questions, quand est-ce qu'on a affaire à une forme et quand est-ce qu'on a affaire à une apparence de forme, quelque chose qui a l'air d'être une forme. C'est comme le Canada Dry avec l'alcool, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub. Voilà, quelque chose qui a le goût de l'alcool, l'apparence de l'alcool, mais ce n'en est pas. Bon, alors, il y a des formes qui ont l'apparence de forme, mais ce n'en est pas. Alors, moi, je pense que la piste pour trouver la réponse, enfin, de plus en plus, je pense à ça, j'écris là-dessus. C'est le livre qui ne concerne pas le design de Adolf Portman, qui est publié en 1947 et réédité en 60, je ne sais plus combien, 66 peut-être, ou par là, et qui a été récemment, en 2013, je crois, retraduit en français, La forme animale. Et c'est un livre, je pense, que tout designer devrait lire. Parce que justement, là, et en plus, ce n'est pas quelqu'un qui est obsédé par les questions de design, etc. Et lui, ce qu'il travaille, c'est qu'est-ce que c'est que la forme animale. Et il y a une définition magnifique à la fin du livre, et pas que d'ailleurs dans la fin, mais où il dit, en fait, toute espèce animale se dote, au cours de son évolution, finit par se doter d'une forme. Et la forme, il la définit finalement comme étant l'auto-présentation par l'espèce de ce qu'elle est. Et il précise bien, il est en polémique contre les biologistes de son temps, que ça n'est pas fonctionnel. Par exemple, on peut dire la forme de tel, je sais pas quoi, de tel plumage, soit c'est ça a une fonction de camouflage. En cas de besoin, soit c'est un stimulant sexuel pour appeler le partenaire ou la partenaire, etc. Et il montre que non. Enfin, lisons-le. Bon, au moins lisons-le. Et donc on pourrait dire ça, que finalement un objet qui alors c'est pas clair ce que je veux dire, mais après il y a qu'à entre nous discuter et travailler. Un objet parvient à une forme lorsque une série d'objets, enfin une famille d'objets, voilà, une famille d'objets parvient à la forme lorsqu'elle est en situation de s'auto-présenter. Voilà. Mais c'est quelque chose qui n'a pas de fonction qui s'ouvre à la présentation de la chose par elle-même, comme l'animal doté de son plumage, si c'est une forme, etc. Voilà. La présentation de la chose par elle-même est d'une certaine manière pour rien. Pour rien d'autre que le se montrer au monde et aux autres. Alors, ça paraît, c'est moi qui pose une question là. Ça paraît ce que je dis après, vous me dites quand je m'arrête, hein. Mais ça paraît ce que je dis là peut-être paraître dire on a quand même d'autres urgences quoi, aujourd'hui. Hein, franchement, que de travailler pour la forme, etc. Ben, c'est pas sûr. Parce que qui d'entre vous peut me dire que le monde va bien? Ça fait un paquet d'années qu'on ne travaille pas pour la forme, qu'on est dans les environnements, les nécessités usuelles, les usages, etc., etc. Ça va mieux depuis qu'on est dans ce monde-là, ou pas? Si ça ne va pas mieux, ce que je pense, peut-être qu'en réalité, mettre au monde quelque chose qui tient aux formes, mais le contraire de forme, je vais dire autrement, c'est quoi le contraire? Quel est le contraire de forme? Vous avez difforme ou uniforme, hein, ou informe, mais aussi uniforme. Un monde qui n'a pas de forme, c'est un monde uniforme. Un monde uniforme, c'est un monde dont on ne sort pas. Voilà. C'est assez triste. Voilà. C'est pas sûr qu'un monde formé serait un monde qui irait moins bien, même moins bien, hein, qu'un monde qui n'a pas de forme. Voilà. Peut-être que c'est ça qui nous manque. Voilà. Peut-être que ce qui nous manque, c'est de pouvoir être un peu arrêté dans nos usages. Et ce qui va nous arrêter dans nos usages, si jamais il le faut, c'est peut-être justement qu'on est affaire à des objets enfin perceptibles, au sens que j'ai essayé de définir ce soir. Donc il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Ça a l'air de ne pas être urgent, ce dont je parle. Ça l'est peut-être beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser à première vue.
Merci beaucoup. C'est à Damien pour ton exposé. Et très bientôt pour les étudiants. J'espère que ça va infuser dans l'esprit et à l'éducation.
Merci beaucoup, bonne soirée. Merci pour votre patience. Bravo.